Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabrice Epstein.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Avec plaisir.
Raconte, je ne sais plus si on se tutoie ou on se voit.
On peut se tutoyer.
On se tutoie. Raconte-moi Fabrice, comment et pourquoi tu es devenu avocat?
Alors, comment je suis devenu avocat? Par hasard, j'étais étudiant en école de commerce à l'ESSEC et je ne savais pas trop ce que j'allais faire dans ma vie professionnelle. Donc j'ai un copain proche qui m'a inscrit dans un cursus droit. J'ai fait du droit 1 an, 2 ans et ensuite je me suis un peu pris au jeu. Et ça m'a donné envie d'être avocat. Mais avant de devenir avocat, je songeais à être prof de droit. Parce que j'avais envie de pousser les études encore, après l'ESSEC, et faire peut-être une thèse. Mais un prof de DEA, ça s'appelait comme ça à l'époque, m'a dit il vaut mieux devenir avocat, essayer de bien gagner sa vie, et ensuite revenir vers le professorat.
Et cet ami, comme ça, qui vous inscrit en fac de droit?
Ouais, parce qu'il se dit que si je m'étais pas inscrit dans quelque chose d'un peu différent du commerce pur et dur, j'aurais été extrêmement malheureux, voire j'aurais pas fait grand chose.
Et vous avez juste suivi aveuglément la recommandation de votre ami?
Oui, de toute façon, j'avais pas trop d'options. Je me voyais pas être banquier d'affaires ou faire du marketing. C'est à l'époque où de l'audit, c'était ce qu'on proposait dans les écoles de commerce dans les années 2000. Et bon, je me disais pourquoi ne pas essayer le droit. D'ailleurs, quand j'étais petit, je pensais que je serais ambassadeur ou avocat en droit international. Ce qui voulait rien dire, parce que je n'étais rien derrière, mais ouais. J'avais tout de même cette notion-là.
Moi aussi, je disais que je voulais être avocat international, ouais. Sans rien mettre derrière.
Ça veut dire qu'on est là pour voyager, voilà. On rencontre du monde. Et
parler des langues étrangères.
Exactement. Bon, c'est un peu ça, avocat.
Ouais. Et donc, le droit manifestement vous plaît, parce que vous envisagez même d'en faire une thèse.
Oui, le droit international privé me plaisait beaucoup. J'aimais bien cette idée que des droits étrangers se confrontent et qu'il y ait de la complexité, qu'on essaie d'y trouver une logique ou une philosophie. Et j'avais envie d'aller vers des sujets de droits internationaux, mais plutôt de personnes privées. La comtesse, machin, qui se marie avec le comte truc, ils ont des immeubles à l'étranger. Le jour où un meurt, que se passe-t-il? Quelle loi est applicable? Ça me plaisait bien.
La gymnastique du droit international.
Oui, j'aimais bien, ouais. J'aimais bien.
Et vous vous en êtes drastiquement éloigné?
Oui, complètement même. Quand j'ai là encore, c'est un copain qui m'a trouvé ma première collaboration. Quand j'ai
pas le même.
Entre temps, il avait changé. Je savais pas trop quoi faire et c'était une époque où c'était très dur de trouver une collaboration contentieuse. Je faisais plutôt ça quand j'étais stagiaire. Et j'ai un copain qui m'a dit il faut absolument que tu ailles chez Brandford Griffith. Je connais un avocat là-bas, il est super. Tu vas faire du droit boursier, tu vas adorer. Et vas-y, présente ton CV. Donc c'est ce que j'ai fait.
Et toi, tu t'es dit, le droit boursier, ça a l'air effectivement génial?
Oui, pas vraiment. Mais
ou
je me suis dit, au moins, ça va m'occuper. Il me faut un travail, absolument.
Okay. Et les stages?
Et les stages, j'avais fait des stages dans des très gros cabinets. Ou grands cabinets, je ne sais jamais ce qu'il faut dire.
Moi non plus.
Où on est un peu perdu dans la masse des stagiaires, des avocats, et où ça me semblait être des entreprises améliorées, disons, avec la liberté des avocats, mais des entreprises où il fallait bien se faire avoir du chef, où parfois le chef avait des groupies. Enfin, c'était le temps d'avant, mais c'est certainement un temps qui existe encore. Et ça me branchait pas trop. J'avais toujours en tête, parce que ça c'est vrai, quand je suis allé vers cette profession d'avocat, j'avais toujours en tête de devenir ou d'être indépendant. C'est très important cette notion, et j'ai senti que dans un cabinet comme Lovells à l'époque, j'avais certainement fait un stage là-bas, ou Herbert Smith, j'allais pas pouvoir être indépendant. Enfin, il y avait des gens qui étaient indépendants, je me souviens qu'à l'époque les gens fumaient dans leur bureau, j'étais allé voir un associé qui fumait le cigare parce qu'il y avait des relents de cigares qui arrivaient dans le bureau des stagiaires. Donc j'étais très mécontent de cette odeur, je trouvais ça atroce. Donc j'étais allé le voir, je lui avais dit il faudra arrêter de fumer le cigare. Le mec m'avait regardé comme si j'étais un extraterrestre. Il m'avait dit qu'il continuerait à fumer le cigare, je ne sais pas s'il fume encore. Mais voilà, j'ai compris que j'y aurais pas ma place. Et assez vite, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix de Brandford Griffith, enfin, c'était un choix un peu imposé, hein. Qu'il y aurait plus de liberté et que ce serait, ça ressemblerait plus à une boutique ou à un endroit où les avocats étaient de vrais avocats.
Qu'est-ce que tu mettais derrière le mot d'indépendance?
Beaucoup de choses. D'abord, mes parents étaient commerçants. Donc je voyais ce que c'était que d'être indépendant, c'est avoir son propre magasin, l'ouvrir, le fermer. L'indépendance, c'est d'abord un peu jouer avec son temps, comme on le souhaitait, être habillé comme on le voulait. Ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, parce qu'à l'époque, on mettait des costumes, des cravates, les gens respiraient pas avec leurs chemises, ça a changé, ça aussi. Et l'indépendance, c'était l'indépendance d'esprit aussi, de pouvoir s'intéresser à d'autres choses que son métier, de pouvoir dire librement ce que l'on pense. Et ça a animé ma vision du métier d'avocat. Eux, ils étaient indépendants. Qu'est-ce que ça voulait dire pour un cabinet comme celui que j'avais rejoint au départ ? C'était pas un gros cabinet. Ils dépendaient pas de New York ou de Londres. C'est ça leur notion d'indépendance. Bon, c'est une faible notion d'indépendance, je trouve. Mais toujours est-il qu'il y avait cette volonté d'être un cabinet français indépendant, qui vivait par lui-même. J'aimais bien ça. Ça se ressentait un petit peu, cette indépendance d'esprit, cette indépendance de l'avocat.
Et comment ça s'est passé justement cette première collaboration ?
Mal, ça ne pouvait que mal se passer de toute façon, parce que la collaboration c'est quelque chose de difficile, voire d'impossible pour certains caractères. Or au départ, comme beaucoup de collaborations, c'est un truc fantastique, tout le monde est beau, intelligent, gentil, sympathique. Chez Brantford Griffith, mais avec un côté un peu génial, il y a des gens assez caractériels, et c'était pas très simple de travailler avec eux, mais on va dire que je m'en sortais correctement. Et puis est arrivé en 2007-2008, enfin c'est le moment où j'ai commencé, hein, au bout d'un an, et demi, la crise, et surtout la crise du droit boursier. Donc dans ces cabinets, il y a eu des difficultés, ce qui est assez logique. Et finalement, beaucoup de gens sont partis, ont dû changer. Donc ça s'est, moi, je dirais, plutôt bien passé. J'avais ce sentiment d'indépendance quand j'étais collaborateur, c'est-à-dire que je commençais déjà à faire quelques petits dossiers perso. Puisqu'on me branchait sur des dossiers perso et j'aimais bien l'idée de se dire c'est moi qui vais apposer ma signature, je vais prendre la responsabilité de faire un dossier. Et quand la collaboration s'est arrêtée, j'en ai fait une deuxième. Et ça s'est bien passé au début, mal à la fin.
Et ça s'est arrêté dans le premier cabinet du fait de la crise ?
C'est arrêté du fait de la crise,
oui. Ouais. Et est-ce que, on va dire, ça avait déjà commencé à un peu plus mal se passer avant la crise ou...
Non, ça se passait
c'est
plutôt
vraiment
bien.
La crise
non, ça se passait plutôt bien. C'était un cabinet que j'aimais bien.
Ouais.
Et on m'avait fait une proposition honnête ou pas, ou une proposition qu'on ne peut pas refuser. C'est comme ça qu'on me l'avait vendu, un peu comme dans Le Parrain. On m'avait proposé à l'époque d'aller animer le bureau de Dubaï de ce cabinet. Et c'était une bonne et mauvaise idée. Une bonne idée parce que c'était un vrai projet entrepreneurial qui m'intéressait, mais j'étais très jeune, j'avais qu'un an d'expérience, et mauvaise idée parce que je craignais d'être mal formé ou pas formé, et de me retrouver à 3, 4, 5 ans d'expérience sans aucune notion d'un traitement de dossier. Et ma génération, donc les gens qui ont prêté serment dans les années 2007-2008, c'est quand même, on était encore, hein, peut-être entre deux, mais avec cette volonté ou cette croyance qu'il fallait qu'on soit formé par des plus vieux que nous. Et à ce moment-là, j'ai considéré que je ne serais pas formé, donc je n'ai pas vraiment trouvé un deal au sujet de ce départ à Dubaï. Et ça a accéléré mon départ,
ouais.
Je pense.
Tu parles des dossiers persos que tu as commencé à faire dès le démarrage. Mmh. Au cabinet, c'était du droit boursier. C'était quoi comme droit boursier ? C'était d'accompagner des sociétés dans leur entrée en bourse ? C'était la gestion de toutes les obligations réglementariées au fait d'être en bourse ?
Oui, c'était plutôt du M&A coté.
M&A coté. Okay.
Et c'était intéressant d'ailleurs, parce qu'il y avait cet aspect réglementaire.
Et qu'est-ce qu'on t'envoyait comme dossier perso ? Qu'est-ce que tu gérais comme dossier
vraiment
perso ?
Peu intéressant. Ça allait d'un bail, d'une dispute entre un locataire et un propriétaire à un petit contentieux de recouvrement de créances. Mais, et d'ailleurs, des associés du cabinet m'envoyaient leurs petits dossiers qu'ils ne voulaient pas traiter. Et moi, j'aimais bien, parce que j'aimais bien voir ce rapport avec le client direct. Ils me prenaient pour leur avocat, ils avaient raison. Enfin, y avait cette démarche d'aller plaider pour eux, c'était souvent des petits dossiers contentieux. Et j'ai pas oublié que j'aimais bien ce rapport aux clients, j'aimais bien les rassurer. Il y a cet aspect des honoraires aussi, qui n'était pas simple, pour lesquels dans les gros cabinets on est complètement coupé d'un aspect plus qu'utile de cette profession. Et c'était à moi de me débrouiller, savoir quel tarif je devais pratiquer, quand est-ce qu'il fallait redemander de l'argent, par exemple, ou pas. J'aimais bien cette notion-là d'être en direct avec le client.
Ouais. Qu'est-ce que tu as appris justement sur la gestion des honoraires à cette époque ?
Qu'il qu'il fallait en demander, qu'il fallait oser en demander. Parce que peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais dans ce métier, souvent, les gens, ils n'osent pas demander ou ils ont peur de demander. Mais je ne sais plus qui m'a dit ça récemment, et je trouvais que c'était assez juste. On est des prestataires de services, donc on rend service aux gens, finalement. Et comme on leur rend service, ça ne peut pas être gratuit, il faut bien qu'il y ait quelque chose en face. Et c'est pas que le client est content, il a un bon résultat, il paye, parce que finalement le client n'est jamais content de payer, même quand il a un bon résultat, sauf quand on le ponctionne sur ce qu'il a éventuellement récupéré, et encore qu'il le voit comme un appauvrissement parfois. Donc il faut être dans cette démarche de fermeté vis-à-vis du client, je pense, pour réussir à le facturer correctement et lui faire comprendre que c'est essentiel dans une relation avocat-client de facturer. Je pense que la mentalité française, c'est pas vraiment celle-là. On est plus dans une mentalité américaine où clairement l'avocat est vu comme quelqu'un, pas forcément de vénal, mais qui sait facturer. Et très tôt, d'ailleurs je voyais autour de moi, hein, les gens savaient très bien facturer, mais des honoraires qui me semblaient astronomiques à l'époque dans des gros dossiers M&A. Avec le client, avec un petit client, on apprend à facturer. Et c'est essentiel.
Tu vois, tu dis le client n'est jamais content de...
Pas jamais content, non, c'est pas vrai. Parfois, ouais. Il est content quand on lui a rapporté une énorme somme. Bon, ben, il se déshabille un petit peu.
Quand c'est indolore.
Il partage, ouais. Quand c'est indolore, oui, mais, ouais. mais de manière générale, non, les clients ne sont pas contents. Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi le métier qui a évolué. Les gens aujourd'hui mettent en compétition les avocats. Donc ils ont l'habitude qu'on leur... ils ne feraient pas ça avec un médecin. Vous n'allez pas voir trois cardiologues pour leur dire... encore autre chose, parce que c'est remboursé, a priori, par la Sécurité sociale. Il faudrait peut-être que faire ça pour les avocats. Mais les clients abusent du temps de l'avocat et de sa disponibilité et de cette nouvelle façon de voir les choses qui est de mettre en concurrence et de dire un tel me propose moins. Autant au début j'avais tendance à dire ok, je vais faire un effort, autant maintenant je dis il n'y a pas de problème, allez le voir, il est certainement meilleur, en plus il est moins cher, il vous a convaincu, il m'a convaincu aussi, donc je préfère qu'il aille ailleurs. Et d'ailleurs ça commence mal quand ça commence comme ça avec un client. Le client, il faut qu'il ait envie de travailler avec vous, il faut qu'il ait envie aussi de faire un effort et de se plier à ce que vous lui demandez, et si tant est que ce soit raisonnable, parce que 99% du temps, c'est raisonnable. Si ça l'est pas, c'est un autre sujet. Mais si ça l'est, c'est une des conditions essentielles du deal.
T'as déjà eu des clients à qui t'as dit bah, allez-y, il a effectivement l'air meilleur et en plus il est moins cher, donc formidable, et qui ont dit non mais finalement je vais rester avec vous.
Non mais il y en a plein, mais j'ai appris cette technique de mon père qui vendait des jeans. Quand les gens venaient, ils essayaient des tonnes de choses, c'était confus et on sentait qu'ils n'allaient rien prendre, c'était uniquement pour faire du benchmarking. Il arrivait à les prendre par l'épaule comme ça et à les mettre
dehors.
Mais ils ne comprenaient rien, c'est-à-dire que le client ne comprenait pas ce qui lui était arrivé, il s'était retrouvé dehors en quelques minutes et il ne revenait pas. Et moi j'en ai comme ça. Non, mais c'est certain que la meilleure façon de faire fuir un client, c'est de lui proposer de doubler les honoraires. Là, s'il reste avec vous, c'est qu'il vous aime vraiment beaucoup. Ou qui sait, parce que c'est aussi une réalité, qu'il ne pourra pas trouver le même service ailleurs parce qu'il est taré, parce qu'il est compliqué et qu'il sait que vous saurez l'accompagner. Mais c'est un critère comme un autre et c'est un critère qui peut pousser un client à partir. Mais c'est sain que certains clients partent. Il y a des moments où... il faut renouveler sa clientèle et ses clients.
Oui. Et donc, on en était à cette première collaboration qui s'arrête. Non,
parce qu'après, on va dire que je parle que d'honoraires.
Non, pas du tout. Mais moi, et je pense que les auditeurs seraient ravis qu'on parle que d'honoraires. C'est un sujet qui passionne.
Oui, mais je comprends.
Parce qu'il préoccupe, parce que quand est-ce que s'arrête la phase gratuite, est-ce qu'il faut faire payer dès qu'on décroche le téléphone ou pas, et comment on fait un devis, et comment donc c'est un sujet sur lequel en vrai on pourrait faire trois heures, voilà, exactement. Mais pour revenir sur cette collaboration, donc ça s'arrête dans ce cabinet, et comment est-ce que tu rebondis?
Je rebondis en me disant qu'il faut que je trouve un autre boulot, et j'envoie beaucoup de CV, et c'est une époque où des cabinets qui aujourd'hui ont pignon sur rue et sont beaucoup plus importants que ce qu'ils étaient il y a 15 ans, recrutent à tour de bras, parce qu'eux ont une belle activité. Ils font pas du M&A coté, mais ils font plutôt du non-coté, du private equity. C'est les débuts des levées de fonds pour certaines pépites françaises. C'est le moment où Xavier Niel investit un peu partout. Donc il y a beaucoup de business dans ce secteur. Et je trouve une collaboration chez Sécrit Valentin, qui sont des anciens d'ailleurs de Brantford. Ça, c'est rigolo.
Et j'ai interviewé il y a très longtemps Jean-Marie Valentin.
Ah oui, bah j'avais travaillé avec lui. Ouais. Et je vais chez eux et c'est très différent comme cabinet. C'est un cabinet plus terre à terre. C'est un cabinet qui traite énormément de dossiers à l'époque, toujours aujourd'hui, hein, voire encore plus. Et entrepreneurial aussi, avec cette volonté d'être son propre patron, qui est assez séduisant. Mais c'est pas chez moi. Et je trouve ça bien, mais je m'ennuie un peu. Donc je fais deux choses. Bon, je développe ma clientèle perso. Là, avec un tout petit peu plus de bouteilles et des dossiers qui commencent à être des dossiers amenés de levée de fonds pour des potes de potes. Comme j'ai fait les secs, j'ai des gens autour de moi, même si c'est pas vraiment le moment, mais qui commencent à entreprendre. Notamment un, dont je suis encore l'avocat, ça fait plus de 20 ans qu'on bosse ensemble. Et je fais ça, et je passe le concours de la conférence du stage, en me disant, ben, ça va peut-être m'ouvrir d'autres portes que celles que j'ai pu ouvrir jusqu'à présent. Et c'est ce qui me donne envie de créer mon cap. Enfin, c'est ce qui me donne envie d'être avocat plutôt, d'être réellement avocat.
Ouais, et quand tu dis c'est un cabinet plus terre à terre, tu penses à quoi ?
Non, je pense que on parle moins d'autre chose que du travail. C'est vraiment très très centré sur le travail. Et c'est bien. Mais moi, j'attends autre chose, une ouverture d'esprit autre que j'avais chez Brantford Griffith. Mais chez Sécrit, j'ai énormément appris. J'ai fait beaucoup, beaucoup de dossiers.
Et j'imagine plus proche de ce que.
Exactement.
De ta pratique.
Exactement, actuelle. Ouais. Mais c'est des approches différentes, très différentes.
Et tu dis que ton développement, enfin du coup, voilà, deux manières de te sortir d'une forme d'ennui. D'une part, le développement de ton activité personnelle et d'autre part, la conférence. Côté perso, c'est vraiment essentiellement venu... Enfin, t'as fait des démarches proactives ou ça a coïncidé avec le moment où premier cercle commençait à entreprendre et t'étais identifié?
Non, j'ai toujours fait des démarches proactives. Ouais. J'ai toujours été très proactif et je le suis encore énormément. J'ai toujours parlé du cabinet ou des cabinets dans lesquels j'étais. Avec des copains, quand j'allais dîner, quand je prenais des verres. J'ai toujours beaucoup joué sur le fait que je suis avocat. Alors, je suis un tel. Les cabinets que je représentais n'avaient pas le même impact que de dire je bosse chez Clifford ou Allen & Overy, ou c'est ces grands noms connus, très très connus, très identifiés sur le marché. Cela étant, j'insistais beaucoup sur le fait qu'on était capable d'aider telle ou telle personne. Donc, je parlais beaucoup des cabinets. Je parlais beaucoup du métier, de ce que je faisais, de ce qu'on pouvait faire. Et très tôt, les gens m'ont identifié comme pouvant les aider. Et à partir du moment où ils vous identifient comme pouvant les aider, ils ont envie de bosser avec vous. Vous leur donnez ce qu'ils veulent. Et c'est votre compétence ou votre début de compétence. Donc j'ai bénéficié de contacts de l'ESSEC ou des avocats qui ne sont pas devenus avocats d'ailleurs, des gens que j'avais rencontrés en passant le concours de l'école du barreau, qui sont devenus un peu conseils sur les bords, donc qui m'ont envoyé des choses qu'eux ne pouvaient pas faire. Et on a commencé à faire pas mal de persos. Quoi. Et plutôt M&A, plutôt levée de fonds.
Ouais.
Ce que je faisais tout à fait chez Sécrit Valentin.
Et ce qui te plaisait ?
Oui, ça me plaisait, parce que ça me plaisait d'être en direct avec les avocats adverses, de ne pas avoir à passer par l'intermédiaire de l'associé qui faisait un peu la pluie et le beau temps, parce que dans tous les cabinets que j'ai pu faire comme collaborateur, on vivait beaucoup le truc, pas des portes-serviettes, mais presque, quoi. Et je pense que c'est encore aujourd'hui certainement la réalité pour beaucoup de collaborateurs et collaboratrices de cabinet, c'est que vous allez en réunion, mais vous êtes le porte-serviette de votre associé. Donc à part le regarder avec des grands yeux d'amour ou d'admiration... Pardon ?
Prendre des notes.
Oui, prendre des notes, mais bon, c'est pas ça le métier. Et là, j'aimais bien, parce que je me retrouvais avec des gens qui avaient les âges ou l'âge de mes associés, et je leur parlais en face à face. Ouais. Je pouvais dire ce que je pensais, négocier comme je l'entendais. Et ce que j'aimais bien, et ce que j'ai commencé à comprendre, c'est que j'allais chercher des clients qui me ressemblaient un peu ou avec qui il y avait une réelle complicité dans les échanges. Parce que quand vous êtes collaborateur, que vous reprenez les clients des autres, parfois il n'y a aucun lien entre vous et les gens que vous conseillez. Donc vous êtes juste le gratte-papier et puis ça s'arrête là. D'ailleurs, parfois les clients vous le font ressentir. Parfois votre associé vous le fait ressentir, ce qui est encore pire. Mais là, les clients que j'ai choisis, on s'est choisis, disons. Ils nous ont fait confiance. Enfin, ils m'ont fait confiance. On se ressemblait un peu, quoi. Il y avait de la cohésion dans les négos. Il y avait de la complicité. Et ça, c'est très agréable. c'est très différent. Et ça, d'ailleurs, je pense que pour gagner un dossier, quelle que soit la matière, d'ailleurs, en conseil en contentieux, il faut un bon avocat, mais il faut aussi un bon client. Un bon avocat, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait cette complicité entre le client et l'avocat. Et ça m'a plu. Je me suis dit, bon, bah, si je pouvais faire ça tous les jours, ce serait idéal.
C'est quoi un bon client pour toi ?
Un bon client, c'est un type un peu fantasque. C'est quelqu'un de créatif. C'est quelqu'un qui s'adapte. C'est quelqu'un qui sait se ranger parfois derrière son avocat. C'est quelqu'un qui sait travailler main dans la main avec un avocat. Mais c'est surtout quelqu'un qui... Bon, qui est intelligent évidemment, mais qui vous fait confiance, quoi. Qui sait placer la confiance et parfois qui manipule intelligemment l'avocat. Je crois que les clients et les avocats se ressemblent. J'ai eu des clients dont je me disais, moi, il y a ce côté joueur. J'ai récemment été l'avocat d'un banquier très joueur qui voulait pas trop s'arrêter dans la négociation et je le comprenais. Me disait, on a ce lien, je comprends tout à fait sa façon de réfléchir. Et ensemble, je pense qu'il a su s'arrêter quand il le fallait, donc il a su m'écouter. Et ensemble, je trouvais qu'on fusionnait. C'est peut-être ça le client parfait. J'avais un autre Rwandais, génocidaire, donc là, très méchant, parce que j'ai défendu, il fut un temps, des Rwandais génocidaires dans la cour d'assises de Paris. Il y a un moment où j'avais le sentiment aussi qu'on était complètement sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, lui comme moi, on avait mis du temps à démarrer dans une audience pénale très longue qui durait un mois et demi. Et à la fin, lui comme moi, on avait envie de continuer parce qu'on était en forme et qu'on s'était nourri de cette audience au fur et à mesure et qu'on était plus réveillé, plus alerte au bout d'un mois et demi qu'au départ. Mais le hasard n'en était peut-être pas un parce qu'on s'est rendu compte que tous les deux, on était nés le même jour. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que lui qui était né le même jour dans cette salle d'audience, et le président de la cour d'assises qui lui-même, marathonien, était plutôt en forme. Donc le client parfait, oui, c'est le client avec qui on peut vivre cette symbiose. Et il y en a, bien sûr, il n'y en a pas, c'est pas la majorité des clients. Mais il existe, et il faut le chercher. Il faut chercher ce client qui vous ressemble, avec qui il y a cette synthèse. Et alors, il faut se méfier, c'est pas le client qui veut être avocat. S'il y a des clients qui rêvent d'être avocats, qui ressentent cette fibre de défendre leur point de vue ou de se défendre contre les autres, et eux peuvent être très vite des ennemis. D'ailleurs, souvent on dit que le client est son pire ennemi, ça c'est très vrai au pénal, c'est vrai aussi en M&A, quand vous négociez un pacte et que vous tombez d'accord avec les clients pour que telle et telle clause, il faut absolument la tenir et ne pas la perdre, et que le client devant vous, il dit « bon ben on laisse tomber ce point-là, on le donne à la partie adverse ». Ça c'est aussi terrible que l'accusé qui a la parole en dernier et qui dit « alors qu'on a plaidé l'acquittement, si je pouvais, je recommencerais. Mmh. En gros, c'est moi qui l'ai tué. » Donc, il y a cette... Mais ça passe par une fréquentation longue. D'ailleurs, souvent, des clients... Moi, je crois à ça, que j'ai beaucoup d'amis ou de connaissances qui sont devenus des clients et qui restent des clients, avec qui ça s'est bien passé. J'ai pas, à ce stade, perdu un ami ou une connaissance proche parce qu'on a travaillé ensemble et qu'elle était insatisfaite ou qu'à un moment, c'est allé trop loin que la relation amicale a pu en pâtir. Donc, c'est ma vision, hein. Elle est ce qu'elle est, mais à l'inverse, pour le client, le bon avocat, c'est qui ? Parce que c'est peut-être une question que vous allez poser. C'est la personne avec qui on a envie de passer du temps, je trouve, avec qui on a envie d'échanger et avec qui, au fond, la relation qu'on peut avoir dans le dossier est le prolongement d'une relation autre. En tout cas, c'est comme ça que je vis la relation entre un client et son avocat.
T'as déjà eu besoin d'avoir recours à un avocat ?
Oui, 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 absolument. J'en étais très fier. Je disais, tiens, j'ai un avocat, voilà. C'était super. Oui, oui, et c'est le bâtonnier actuel. Mon avocat, je vais te raconter, c'est une histoire qui est rigolote. Quand on a créé le cabinet avec Benjamin, mon associé, et ça fait plus de 10 ans, on s'est rencontré à la conférence, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On a créé le cabinet, enfin, en gros, on a pris un bureau tous les deux au départ. En se disant, on va voir ce qu'on peut faire, on va essayer de développer le cabinet, on a quelques clients qu'on pourrait aller voir ensemble, parce que lui faisait plutôt du droit immobilier et moi du M&A, disons. Et on a intégré une troisième personne, avec qui ça s'est très mal passé, très vite. Ah, c'est bien d'ailleurs, parce que souvent les associations, bon, on le voit dans les dossiers, ça se passe mal
ça
très vite.
Tiole.
Très vite. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'au moins il suffit de couper le nœud gordien très rapidement. Mais... À trois, c'est ce qu'on nous avait appris, c'est un trouble, et c'est très compliqué un trouble. Donc on s'est séparé de cette personne, et pour se séparer de cette personne, on a dû prendre un avocat qui était Pierre Hoffman, et qui a bien négocié avec l'avocat de la tierce personne, et on a réussi à se séparer sans trop de heurts, sachant que c'était les prémices du cabinet, qu'on faisait un chiffre d'affaires ridicule, et qu'il n'y avait pas grand-chose à se partager, si ce n'est des codes. Voilà, on les avait coupés, on avait gardé les deux tiers, on avait laissé un tiers. Mais oui, j'ai eu recours à un avocat. Et comment on l'a choisi?
Surtout, Pierre Hoffman, il n'est pas connu pour faire du conflit d'associés.
Je ne sais plus très bien comment on est arrivé à lui, mais t'es content d'être arrivé à lui. Il connaissait l'avocat de la personne contre qui on se chamaillait. Et ils ont réussi à trouver un deal très facilement. Mais c'était, je pense qu'on avait besoin d'avocats, les deux parties, pour la forme. Et que finalement, notre dossier n'était pas très compliqué. Mais c'est tout. On n'a pas eu besoin d'autres avocats ou d'avocats. Mais tant mieux, d'ailleurs.
C'est intéressant que tu ne te souviennes pas comment vous vous étiez arrivé jusqu'à...
Ou peut-être que j'ose pas le dire.
Ou peut-être que tu n'oses pas le dire. Bah oui, c'est vrai. Peut-être que tu ne veux pas le dire.
Absolument.
Et qu'est-ce que le bon avocat côté client? Vaste question, c'est vrai.
Oui, qu'est-ce que le bon client pour un avocat? Et ça, c'est le temps qui le permet. Aujourd'hui, j'ai vraiment des bons clients. Dans le sens des clients que j'estime, des clients avec qui il est très agréable de travailler, et des clients en qui j'ai confiance aussi, pour pouvoir mener à bien des négos qui me font confiance, mais pour pouvoir gérer leurs intérêts au mieux.
Et donc la deuxième manière de tromper l'ennemi, ça a été la conférence.
Oui, pour une raison très simple, c'est que ça rejoint le développement des dossiers perso. La conférence, c'est une école d'avocat, dans le sens où elle te permet d'être réellement avocat en ayant des clients. Et c'est aussi pour ça qu'au cabinet, peut-être dans tous les sens, mais on a une pratique qui n'est pas que notre matière, on ne fait pas que du M&A ou que du contentieux ou que de l'immobilier, mais plein d'autres choses. C'est que être avocat, c'est la relation client à la conférence. C'est le grand bain de la relation client. Comment gérer quelqu'un qui sort d'une garde à vue et qui va être présenté à un juge d'instruction? Comment lui parler dans le cadre de la cour d'assises qui va arriver? Comment parler à sa famille? Comment être vraiment dans ce rapport, là encore, presque fusionnel, avec un client qui est dans le dénuement, qui est dans un état critique et pour qui vous êtes le seul rempart? Et moi, j'ai le sentiment aussi de le vivre en M&A, dans des négociations ou dans des contentieux. Vous êtes parfois la personne que votre client ou votre cliente voit plus que son conjoint ou sa conjointe. Parce que le dossier le veut, parce que ce qui lui prend l'esprit à l'instant T, c'est son dossier, et qu'il n'y a plus que ça qui compte. Au pénal, c'est évident. Vous êtes en prison, vous n'avez que ça à faire, de voir votre famille ou votre avocat au parloir. Et la conférence... Oh, je lui trouve plein de côtés critiques. C'est les 12, le groupe, c'est difficile. Les réunions en permanence, c'est difficile. Il y a un côté politique qui est assez encombrant, je trouve, et qui n'est pas trop agréable. Il y a un côté où les secrétaires se prennent pour le sel de la terre aussi, souvent. Mais quelle école pour devenir avocat? Parce que ce rapport en permanence avec les clients et cette tension dans les dossiers et ces 23e chambres correctionnelles, les assises, et le discours de fin d'année aussi quand on est premier ou deuxième, mais vraiment, on c'est la meilleure façon de se former pour devenir avocat, quelle que soit la matière.
Oui. Et est-ce que tu t'es dit, je fais cette année de conférence, je fais du droit pénal, mais ensuite, je retournerai au corporate M&A?
Je me suis rien dit.
Tu t'es rien dit?
Je me suis rien dit. Je me suis dit que c'était une belle porte de sortie. Et puis quand ça s'est arrêté, le cabinet où j'étais, j'imagine, hein, souhaiter que je développe le contentieux chez eux, et le M&A aussi, puisque j'en faisais évidemment, je continuais à en faire, même s'ils m'avaient donné beaucoup de chance pour passer du temps à la conférence. Et quand on goûte à ce rapport à la clientèle et aux clients, c'était pas possible de redevenir collaborateur ou compte seul ou associé dans un autre cabinet que le sien. J'avais envie, et c'est ce que ça m'a fait dire, de développer ma clientèle perso et de devenir avocat.
Oui, et donc c'est à ce moment-là que tu considères que tu es devenu avocat, quand tu t'es installé.
Complètement, je ne considère pas. Avant, je n'étais pas avocat, j'étais gratte-papier, j'étais le type qui a peur que le téléphone sonne parce que le patron va l'appeler pour lui dire que c'est fini ou qu'une bourde a été faite. Et surtout sans le lien avec le client. Ça, c'était terrible. J'étais Ouais, une fois de plus, dans une pyramide, un pion ou une pierre ou une brique, c'est bien aussi, parce que ça apprend à se former, à faire des beaux dogs bien alignés, etc., sans faute d'orthographe. Mais c'est pas suffisant. On rate quelque chose. J'avais de toute façon cette volonté d'être indépendant.
Donc, pour toi, l'avocat se définit par ce rapport avec le client.
Oui, bien sûr. Mais quand ça s'est arrêté chez Sécri, je me suis interrogé à aller dans d'autres cabinets. Et à faire que du pénal.
Quand même, ouais.
D'ailleurs, j'avais rencontré Jean-Louis Pelletier, grand pénaliste, en me disant que peut-être j'essaierais de faire que du pénal chez lui. Mais bon, j'ai senti que c'était pas fait pour moi, en tout cas, de faire que ça. Et que j'avais envie de me lancer dans un truc plus artisanal, qui dépendrait plus de moi. Mais oui, être avocat, c'est avoir des clients. Et d'ailleurs, il y a plusieurs types d'avocats. Il y a l'avocat d'avocat, celui... pour lequel les avocats ou les avocates envoient des dossiers des clients, alors ça c'est pas du tout moi, et il y a l'avocat de client, c'est-à-dire celui qui rencontre quelqu'un dans la rue et qui réussit à faire un dossier avec lui, ou en tout cas a l'envie de faire un dossier avec lui parce qu'il va raconter son histoire, parce qu'on va faire un bout de vie ensemble, ou de chemin professionnel ensemble, et ça c'est très très réjouissant. Alors j'aurais aimé être l'avocat d'un client comme dans Le Parrain, Tom Hagen, qui est l'avocat de la famille Corleone, mais ça n'existe pas. Quoi. Ceci dit, ma vision de l'avocat, c'est aussi un peu la vision du conciliaire, oui. D'ailleurs, parce que les clients, ils vous envoient pas que leur dossier juridique, ils vous demandent des conseils sur est-ce que tel investissement je le fais avec des chiffres économiques, est-ce que je dois divorcer de ma femme et comment je fais pour mettre mon patrimoine de côté, mais il y a un quotidien qui fait que vous êtes dans leur vie. Quoi.
Comment s'est passée justement cette installation ?
Et c'est bien passé.
Donc il y a ce démarrage un peu cafouillé avec le troisième associé.
Mais avant ça, comment on a créé le cabinet avec Benjamin ? C'est tout simple. Moi, j'en avais ras-le-bol de mon câble, lui aussi. Et on s'est dit, prenons des locaux ensemble et voyons ce qu'on peut en faire. C'est simple de commencer un cabinet quand on est avocat. Il suffit d'avoir un ordinateur et de sous-louer un bureau. Donc c'est ce qu'on a fait. On partageait un bureau. Bon, c'était sympa. Hein.
T'avais 4 ans de barre, 3 ans de barre ?
J'avais prêté serment en 2007 et on était en 2011, oui, c'est ça. 4 ans.
Ouais. Oui. Dont
on
une
nous
année
disait
de confiance.
C'est tôt, mais bon. Nous, on ne voyait pas trop la difficulté. On avait des dossiers de conférences qui étaient les queues de dossiers ou la suite des dossiers de l'année en cours. Et on avait du tout petit perso. On s'est mis dans un bureau, on a acheté 2 ordinateurs
et voilà.
Une connexion Internet et ça suffisait. Et on a commencé à se dire, un papier, un stylo, quels sont les gens qu'on peut aller voir, les clients qu'on connaît, et ça a commencé comme ça.
Oui.
Et très vite, on s'est associé avec un troisième, se disant, alors lui était fiscaliste, que la fiscalité allait beaucoup nous aider dans le développement, notamment M&A ou aussi immobilier. Et ça s'est très vite mal passé. Donc tant mieux, on s'est séparés.
C'était un problème de vision, c'était un problème de...
C'était ouais. Un vrai problème de vision, et d'ailleurs, pas que de vision, parce que ça intéresse peut-être les auditeurs, c'est que s'installer c'est super, créer un cabinet c'est encore autre chose. Et avoir un associé ou des associés, alors là c'est très très difficile. Pour s'associer, il faut avoir la même vision de tout, mais c'est très compliqué, j'imagine que c'est comme pour les couples qui durent. Avec Benjamin, on a une vision commune de notre métier, je vais en dire quelques mots, l'argent, c'est un mot un peu large, mais de ce que doit être un cabinet d'avocat, c'est-à-dire ses entrées, ses sorties, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, combien on veut gagner, combien on veut pas gagner, quelle est la bonne façon de réintroduire l'argent qu'on gagne, est-ce qu'on embauche, est-ce qu'on embauche pas, est-ce qu'on le garde pour nous, est-ce qu'on partage avec les autres. Donc là-dessus, on avait complètement la même vision avec Benjamin, mais pas avec le troisième associé. Et encore moins, j'allais dire, la vision de notre métier. Quand on a créé le cabinet ou quand on a pris notre bureau, on s'est dit, on est tous les deux, on fait du conseil et du contentieux, et on veut faire les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que du pénal ou que du contentieux, on ne peut pas faire que du conseil. On va faire les deux et on va s'arranger comme on l'entend. Quoi. Donc on peut aussi bien faire la session d'une start-up à Canal+, que le dossier du Rwandais accusé de génocide. Et ça, notre associé fiscaliste, il ne le comprenait pas. Il se disait, Epstein, c'est un type qui fait que du corpo, donc il doit faire que du corpo. Qu'il aille s'amuser pendant un mois et demi à la cour d'assises de Paris, c'est incompréhensible. Qu'on puisse défendre des gens qui sont accusés des crimes les plus graves, c'est incompréhensible. On ne peut pas y aller. Et d'ailleurs, c'est une des forces et des faiblesses du cabinet, je pense, c'est que les gens, pour moi, je parle à titre personnel, il y a des gens qui m'identifient comme un avocat de Rwandais accusé de génocide. Ils pensent que du matin au soir, je traite ce type de dossier, alors que c'est pas vrai. Il y en a d'autres qui pensent que je fais du MNI du soir au matin, mais ça ressemble plus à ma vie professionnelle. Et encore, c'est pas vrai. Je fais beaucoup de contentieux, de précontentieux, ou j'ai des gens que je conseille à titre de conciliaire. Donc c'est une vision éclatée du métier, mais dans ce qu'elle a de positif, je crois. C'est-à-dire un peu à l'ancienne de cet avocat conseil qui est capable de rédiger un contrat sur un bout de table et sur une napkin, comme diraient les Anglais. Bon. Et parce que j'ai vu qu'on mettait en vente le napkin agreement de Messi à une fortune. Donc c'est vraiment un contrat qui a été rédigé sur un coin de table, comme une audience pénale de quelqu'un qui a commis les crimes les plus graves. Donc on voulait garder ça, et je pense qu'aujourd'hui, on peut-être parler d'ADN, même si ça veut tout et rien dire, on a réussi à maintenir ça. Et c'est une volonté, et ça va d'ailleurs plus loin, puisque à titre perso, j'ai aussi une chronique dans Rock'n'Folk, que je me suis essayé à l'écriture d'ouvrages sur la musique et la justice. Donc c'est cette ouverture que notre troisième associé ne comprenait pas, et avec qui on a vite compris qu'on n'avait pas les mêmes valeurs. Si c'était pour être un cabinet comme ceux dans lesquels on avait été, et Benjamin et moi, c'était pas le deal, c'était pas l'envie. Et surtout, on aurait été très malheureux. Et d'ailleurs, la question se repose à l'envers aujourd'hui, parce qu'une petite structure comme la nôtre pourrait éventuellement intéresser des plus grosses structures. Mais ce qu'on nous propose, c'est de revivre ce qu'on a vécu il y a 15 ans. En gros, que moi, je devienne un type qui fait du MNE de 8h à 24h, enfin 23h le soir. Et Benjamin, du contentieux corpo au quotidien. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse.
Oui, vous, l'idée, c'est vraiment que chacun d'entre vous ait une forme de polyvalence.
Oui, oui. Et la polyvalence, elle n'est pas mal vue par les clients. Enfin, il y a des gens, pas qui sont horribles, ils sont ce qu'ils sont, mais qui ont voulu faire croire aux uns et aux autres. Et je pense que c'est notamment avec l'arrivée des cabinets anglais et anglo-saxons à Paris, avec cette notion de département. C'est vraiment le corporate lawyer, le litigation lawyer, etc. Et on a perdu cette notion de polyvalence, de l'avocat à tout faire, ou de l'homme à tout faire, ou de la femme à tout faire. Et c'est dommage, parce que c'est une façon d'exercer le métier. Et on ne se dit pas, quand on est dans les dossiers en corpo contre des gens qui font ça du matin au soir, qu'on est moins bon. On se dit qu'on a une approche différente. D'ailleurs, ça, c'est le plus agréable pour un avocat. C'est quand votre client vous dit, ou il le dit à la contrepartie quand on négocie son contrat à M&A, mon avocat, il a défendu des génocidaires. Du genre, attention, il peut être méchant, etc. Donc ça montre qu'il y a certains clients, mais c'est ceux qu'on attire de toute façon, hein, ceux qui veulent travailler avec quelqu'un qui a fait 55 deals par an, il ne viendra pas chez Soul Associé. Il va aller chez Lovell ou dans des autres cabinets où les gens font ça vraiment du matin au soir. Mais c'est cette notion de polyvalence, je ne sais pas si originalité est le bon terme, mais cette volonté d'être un avocat comme on l'entend.
Oui, je pense que en fait, la difficulté de la polyvalence, elle peut aussi être dans la communication. C'est-à-dire que c'est plus difficile d'imprimer un message quand tu, disperses le message.
Non,
tu vois. Et donc, en termes de... Enfin, moi, je sais que quand j'accompagne mes clients dans leur développement, quand je mets ma casquette de consultante, c'est vrai qu'au démarrage, pour amorcer une dynamique, j'insiste beaucoup sur mettez une casquette et pendant un temps, faites en sorte que cette casquette, elle imprime à fond, vous soyez hyper identifié sur ce truc.
Non, mais je comprends.
Et voilà, mais effectivement, je te rejoins sur le fait que... Je pense pas que le... Surtout quand on sent qu'il y a une approche globale, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui peut faire la diff. Dans
oui,
la polyvalence.
Non, je sais pas, mais c'est comme quand on va voir un éditeur et qu'il faut le pitcher et il te dit c'est quoi le bouquin en une phrase, en une ligne. Et si c'est en deux ou trois lignes, c'est que c'est plusieurs livres. Et alors, c'est peut-être ça le fond de la question. Certaines personnes que je connais me disent, quand ils voient quelques petites choses sur mon bouquin, tu t'es encore avocat ou, moi, j'y vois une continuité. Les clients qu'on accompagne, ils voient une continuité. Des gens pour qui le message est illisible. Mais c'est pas grave, c'est qu'il est pas pour eux. À un moment, il faut aussi choisir son chemin ou son cheval de bataille. Et si vous n'êtes pas fait pour ses clients, c'est que vous n'êtes pas fait pour être leur avocat. Mais tant mieux.
Et donc, tu disais, oui, que ça a été vraiment ce problème de vision de... d'un côté, vous aviez quand même cette idée de, d'une approche un peu plus globale, pas de la tête d'épingle, hyper spécialisée qui vous, entre guillemets, coupe. Alors que lui,
c'est-à-dire qu'on fait, on fait le même boulot que ces cabinets très spécialisés, mais à notre façon. Donc effectivement, mais c'est, ça ressemble pas à le département corporate, le département contentieux, le département droit social. Non, ça marche pas comme ça. Mais je sais pas si ça répond à la question, mais où ça va répondre à une autre question, c'est qu'il n'est pas évident pour nous de trouver d'autres cabinets avec qui se marier ou avec qui avancer parce que il faut qu'ils acceptent qu'à côté du M&A quotidien ou du contentieux, on fait les bouquins ou les victimes dans des dossiers d'agression sexuelle, qui est une polyvalence, qui est une volonté d'être avocat une fois de plus à tout faire.
Mais tu vois, c'est amusant parce que je pense que c'est plus lisible côté client, le côté M&A et j'ai une activité ou de recherche ou pénale en parallèle, un truc, tu vois, drastiquement différent et qui s'approche presque, pas du pro bono au sens où on peut l'entendre dans le sens gratuit, mais tu vois, presque l'activité de l'avocat dans la cité.
Oui, je comprends. Exactement, mais ça leur donne aussi d'ailleurs parfois envie de travailler avec nous. Parce que quand tu dis ça, c'est tout à fait vrai. J'ai eu un dossier récemment, c'est des clients qui ont vendu leur boîte à Gallimard, et c'est des gens que je connais grâce à mon livre Rock'n'Roll Justice sur Justice et Rock. Et on leur a filé le bouquin, ils ont trouvé ça sympa, c'est des gens qu'on connaissait indirectement, et ils sont venus au cabinet grâce à ça. Donc il y a aussi une logique dans le type de client qu'on veut toucher et qui peut venir au cabinet.
Et qu'est-ce que... J'avais une question sur le bout de la langue. Oui, tu as dit, c'est ce qui fait que ce n'est pas forcément évident pour nous de nous rapprocher d'autres cabinets. Oui. C'est quelque chose que vous avez souhaité faire à un moment ?
Non, alors, pas forcément. Ce qu'on a souhaité faire, c'est intégrer de nouvelles compétences au cabinet. Et ce n'est pas simple, parce qu'on a du mal à trouver des gens qui ont la dalle. Alors, c'est un peu le terme qu'on pourrait employer, qui ont envie de développer, qui ont déjà un peu de clientèle. Ça, c'est dur à trouver. Et là-dessus, je ne sais pas si j'ai grand-chose à dire parce que tout ça n'est pas couronné de succès, mais on a du mal à trouver de nouveaux associés.
Vous avez cherché dans quel... Parce que ça peut être un appel à associer, tu vois.
Non, mais je ne sais pas si c'est un appel à associer.
Vous avez cherché dans quel domaine ?
On a cherché en fiscalité, on a cherché en entreprise en difficulté, on a pu avoir, mais ça ne s'est pas toujours bien passé. Et on aimerait rencontrer des gens qui sont motivés, enfin qui ont envie de développer, qui ont cette vision du métier entrepreneurial, qui aiment le rapport avec les clients et qui aimeraient apporter leur pierre à l'édifice. D'ailleurs, dans toutes les matières, on est ouvert à la rencontre de profils qui ont envie de faire des choses, parce que c'est un métier où on peut faire des tonnes de choses, où on peut avoir des clients qu'on n'imaginerait pas ou qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans, où il suffit d'une rencontre, il suffit d'un bon email, il suffit d'un mot qui a été glissé dans la bonne oreille pour qu'un dossier fantastique s'ouvre et qu'on parte pour X années de bagarre judiciaire ou de bagarre de négociation. Je trouve un métier passionnant, mais où parfois, j'ai le sentiment que les gens n'ont pas trop envie de jouer cette carte à fond.
Ouais, tu trouves...
Mais peut-être que je me trompe.
Mais non, mais c'est ton sentiment très subjectif qui n'est pas une édiction de vérité.
Ah
mais
non, vraiment pas.
Ton sentiment, en tout cas, des personnes que tu as pu rencontrer en général, tu as le sentiment que les gens ont, je sais pas assez faim ou ne sont pas assez dans cette dynamique très proactive de développement et assez entrepreneuriale.
Comment on développe quel que soit l'avocat, il n'y a pas un avocat qui reste dans son bureau, et peut-être qu'il faudrait prendre exemple sur les avocats américains qui, eux, sont des ambulances chasers, mais sans tomber là-dedans, mais qui ont l'habitude de parler d'eux, de parler de leur pratique, de faire du small talk et d'attirer des clients. Non, je trouve que en tout cas, moi, les gens que je peux croiser sont vraiment très concentrés sur les dossiers, sur les minuscules détails. Ils sont pas deal makers, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc, on n'a pas envie de trouver un deal. Je parle pas comme Donald Trump, c'est pas le sujet des art of the deal, mais c'est d'essayer de trouver une solution. Parce que moi, dans ma vision de l'avocat, c'est aussi, alors c'est encore un terme anglais, mais que j'aime bien, c'est le fixeur. C'est-à-dire en anglais, c'est celui qui trouve une solution, qui réussit à mettre les gens d'accord. Et je trouve que, mais là, on s'éloigne de ce sujet d'avoir faim, Mais peut-être que c'est lié, parce que je pense que quand on a faim, on a envie que les dossiers se passent vite et bien, et qu'on aille vers autre chose. Je pense que les avocats sont vraiment, vraiment concentrés sur des micro-détails, sur être certain de bien respecter tel ou tel point, et n'ont pas envie de développer ou de multiplier les contacts. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui se satisfont de leur situation, des dossiers qu'ils peuvent avoir, de cette position de collaborateur aussi parfois, et qui est une position dans laquelle, à mon sens, il faut sortir. Alors, pas complètement, parce qu'il en faut dans tous les cabinets, et ça marche aussi comme ça, mais les collaborateurs ont vocation à être associés, ont vocation à développer, et il faut avoir envie d'aller chercher. Et moi, je parle à titre personnel, mais c'est le cas pour Benjamin aussi, dans notre cabinet. Nous, on a commencé avec, je ne sais pas, 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, ou peut-être 20 000 euros de perso par personne dans une année, quand on a commencé. Et on n'avait aucun contact, aucun piston. Il y a des cabinets qui se sont créés sur l'oncle de machin qui envoie 500 000 euros ou 1 million d'euros de dossiers. Ce n'est pas du tout notre cas. On a commencé avec notre petit bâton de pèlerin, zéro clientèle, et on est allé voir les gens, et on faisait des espèces de... c'est pas du dating d'avocats avec des clients, mais on est allé dans les écoles de commerce, on a pensé à faire la Soul Factory, on est allé vers les gens, on faisait des déjeuners tous les jours, et on continue d'en faire d'ailleurs. C'est ça la réalité, c'est qu'en fait, même si votre cabinet il fonctionne, même si il faut trouver cette envie d'aller rencontrer des gens, et d'ailleurs c'est super agréable d'aller rencontrer des gens. Vous apprenez toujours des choses. En plus, si vous savez faire, les déjeuners, ils sont assez orchestrés. Il y a un moment où on parle des enfants, il y a un moment où on parle de sa vie perso, il y a un moment où on parle de business. Et souvent, vous vous rendez compte que vous avez des points communs avec les gens, et c'est comme ça que ça fait des dossiers, c'est comme ça que ça fait des contacts. Parce qu'à un moment, les avocats, ils se valent tous sur un plan technique. Quand vous êtes vraiment mauvais, personne ne bosse avec vous. Au moins, ça met le problème de côté. Mais quand vous êtes moyen ou moyen bon, ce qui fait la différence, c'est est-ce que vous êtes sympa, est-ce que vous êtes dispo, est-ce que vous avez envie. Et je trouve que c'est dommage, je trouve que ça n'est pas appris quand vous êtes jeune avocat. Moi, je me souviens, quand j'étais à la conférence, j'avais fait un truc très simple pour rencontrer des gens. J'étais deuxième secrétaire, j'avais pris l'annuaire de tous les deuxièmes secrétaires, je les avais tous appelés, on nous avait dit il faut faire des lettres, mais ça voilà, c'est les avocats, c'est un truc très sentencieux qui sert à rien, faire une lettre, bonjour, je suis machin, enchanté. À quoi ça sert de faire une lettre? À rien. Donc j'ai pris les numéros des gens, je les ai appelés tous, et je leur ai dit il faudrait qu'on déjeune. Je les ai rencontrés, j'en ai peut-être fait 150 avec des anciens deuxième secrétaires. Bon, il y en a certains qui sont morts, mais... Et ça m'a permis de rencontrer des gens. Bon, là, c'était des avocats, ils m'ont jamais envoyé de dossier, c'est encore un autre sujet. Mais ça me mettait dans une ambiance où, aujourd'hui, je ne me verrais pas rester devant mon bureau à manger mon cogent, quoi. Il faut aller au contact des gens, même dans un resto, vous êtes la table d'à côté, une discussion peut se créer, ça peut faire un dossier. Et ça, c'est réel. C'est-à-dire que ça nous arrive. J'ai re-rencontré quelqu'un que je connaissais dans la rue. Ça a fait un des plus gros dossiers du cabinet en 2023. Il faut être ouvert aux clients, il faut être ouvert aux personnes qu'on rencontre. Et puis, il faut parler de son boulot sans ne faire qu'en parler. Parce que là, c'est un peu comme... c'est un peu ridicule. D'ailleurs, souvent, les gens, quand vous êtes avocat, c'est un peu comme quand vous êtes médecin, ils vous disent ils ont mal à la côte droite, est-ce que vous pouvez faire quelque chose, etc. Mais, et je trouve que chez les jeunes que je vois, ou moins jeunes d'ailleurs, il n'y a pas cette envie-là. Mais comment est-ce que les dossiers ne vont pas arriver comme ça? C'est pas, on ne va pas vous appeler en vous disant salut, c'est machin, je t'apporte pour 500 000 euros de dossier. Ça n'existe pas, ça, c'est dans les rêves. Dans la vie, il faut aller voir les gens, se confronter. Ne pas avoir de dossier, et puis un jour, trois ans plus tard, la personne appelle, puis c'est un petit dossier, puis un autre, etc.
Ouais, mais ça, c'est...
Et attendez, ça s'apprend pas. C'est pas... Moi, j'ai fait une école de commerce, mais on nous a jamais appris ça. On nous a pas dit, il faut aller au contact des gens, développer. On n'a pas eu de cours de comment faire du small talk et comment développer sa clientèle. Mais c'est dommage, c'est le seul cours qui devrait avoir droit de cité à l'EFB. Le reste, je dis pas que ça sert à rien, mais le reste, on l'apprend en faisant. Mais ce qu'on doit nous apprendre, c'est comment on fait pour avoir des clients.
Moi, j'accompagne cette activité prend de moins en moins de place dans mon temps, mais j'accompagne beaucoup de collaborateurs au moment où ils s'installent, justement dans leur premier mois de développement. Et souvent, c'est vraiment le schéma de j'ai été la tête dans la technique pendant des années comme collaborateur, et tout un coup, je m'installe, et tout un coup, il y a cette anxiété et cette inquiétude et cette impatience que ça tombe. Et un vrai truc comme message qui est dur à leur faire passer, c'est « mais en fait, personne ne vous attend, quoi ». Personne n'a attendu que vous vous installiez. Enfin, c'est assez rare que qui ce soit qui attende que vous vous installiez. Et donc, c'est à partir du moment où vous allez commencer. Enfin, maintenant, en fait, c'est la journée zéro, quoi. La journée zéro, c'est pas quand vous avez commencé à être collaborateur et que vous étiez sagement en train de travailler pour une structure et que, en fait, en dehors de ça, personne ne savait trop ce que vous faisiez, sur quel type d'opération vous travailliez, qu'est-ce que vous permettez de faire pour vos clients, voilà. Et c'est OK, vous avez fait autre chose pendant ce temps-là, mais du coup, le moment où vous vous installez, c'est le moment zéro, et du coup, c'est le moment où vous plantez les premières graines, et potentiellement, les fleurs, elles ne vont pas venir tout de suite, parce que bien évidemment qu'il y a le cas où on tombe sur quelqu'un dans la rue, on se présente et tout, puis en fait, ça fait un dossier demain.
Mais ça met trois ans.
Exactement. Et ça fait que pendant tout ce moment intermédiaire où les graines commencent à être plantées, mais avant que ça fasse des fruits, et donc il y a beaucoup de sensations de faire beaucoup de gratuits. J'ai une cliente récemment qui me dit, mais j'ai l'impression que je brasse de l'air. Et je lui dis, mais en fait, aujourd'hui, ton boulot, c'est d'être commercial, quoi. Ton boulot, c'est d'aller chercher des clients et d'avoir l'état d'esprit, enfin, la force mentale de tenir pendant tout le temps où t'en as pas, mais tu continues à parler de toi et de ton activité et de ce que tu fais avec la même assurance que si t'avais fait 500 000 euros de chiffre d'affaires toute seule l'année dernière. Ouais. Et donc je te rejoins complètement sur ce côté l'état d'esprit et la posture qui va avec ça, quoi.
C'est pas simple, et c'est aussi la faute des associés qui font que les collaborateurs développent pas assez ou sont pas en mesure de développer assez ou se frottent pas ou qui sont pas encouragés à faire du perso.
Toi, comment est-ce que tu gères en interne le fait de t'assurer que tes collaborateurs
Je fais comme ce qu'on m'avait appris chez Brandford, c'est-à-dire que j'essaie d'envoyer, mais c'est très très marginal, quelques dossiers que je veux pas faire ou que je peux pas faire, et qui seront à mon avis des dossiers perso utiles pour les collaborateurs. Parfois, certains clients, sur des petits dossiers, on leur dit que ça serait bien d'aller travailler avec des collaboratrices ou des collaborateurs du cabinet, et ensuite je sais que certains en développent, en font, et c'est tant mieux, parce que c'est profitable pour le cabinet, parce que ça les rend meilleurs, et que je trouve qu'on n'est jamais aussi bon que quand on traite ses propres clients.
Et tu disais tout à l'heure, et tu l'as rapproché du mindset, de cette posture d'aller chercher du client, la posture de deal maker.
Oui.
Ça m'interpelle que tu rapproches les deux.
Non, parce que je me dis peut-être que le client, il peut apprécier que son avocat soit dealmaker ou qu'il ait envie de lui trouver une solution. Et ça se ressent. Ça se ressent dans une discussion de comptoir. Ça s'évalue assez vite, je pense. Et les clients, ils voient les différences entre les avocats, quand les avocats se chamaillent, par exemple, entre le sien et l'autre. Et oui, je pense que quand on est dealmaker, on comprend qu'un deal, il y a des choses qu'on va lâcher, il y a des choses qu'on va obtenir. Et que si on le sait et qu'on va vers cette solution, on économise du temps et on n'est plus disponible pour faire du commercial, comme tu le disais, parce que le nerf de la guerre, c'est effectivement le commercial. Et que le commercial, il faut trouver le temps de le faire, il faut avoir envie de le faire, il faut le renouveler, il faut se donner pour que ça fonctionne. Il faut réfléchir à quelques tactiques commerciales, il faut savoir qui aller chercher, quand aller le chercher, et ça nécessite du temps. Et je pense que les clients apprécient ce côté dénicheur de solutions ou montrer qu'on a envie de trouver une solution plutôt que de rester arc-bouté sur « non, ça, il ne faut pas perdre ça, attention, ça, c'est gravissime ». Là aussi, voilà, le fait de ne pas alerter sur des problèmes qui n'en sont pas ou prendre du recul. Les avocats n'ont pas beaucoup de recul. En tout cas, c'est ce que je remarque dans les dossiers. Et je trouve ça assez pathétique. C'est du premier degré, mais là, on s'éloigne du lien avec les clients, mais du premier degré. Et pas de recul. On reste des conseils de nos clients. On n'est pas nos clients, malgré tout. Donc, il faut aussi prendre du recul. Et on ne peut pas vivre les choses avec autant d'émotions que si c'était nos affaires. D'ailleurs, on est là pour être des tampons et pour être des intermédiaires. Et il faut bien comprendre à quelle place on se situe. Ça me paraît important.
Ouais, non, mais c'est... Moi, j'ai été dans un deal où on essayait de faire un deal et en face, je trouvais l'avocat pas du tout dealmaker avec la contrepartie. et de mon expérience du coup de cliente et de j'ai vraiment pu observer à quel point enfin l'influence de l'avocat sur le sur son client sur ça, elle est énorme. Et c'est vrai que au bout d'un moment on a envie de dire mais en fait enfin oui on peut s'arc-bouter là-dessus mais et tout le reste est-ce que là c'est vraiment raisonnable et donc ouais c'est vrai que c'est hyper frustrant de sentir en face l'influence de l'avocat qui va contre le deal quand toi tu te dis bon mais bon après tu vois c'est aussi possible de se dire bah, potentiellement peut-être que la personne n'avait pas assez envie d'y aller et de dire à son avocat mais j'ai écrit un post LinkedIn d'ailleurs il n'y a pas longtemps parce que j'ai écouté 2 épisodes de podcast qui interviewaient des entrepreneurs qui chacun de manière complètement incidente ont évoqué une affaire où l'un avec un litige d'associé et l'autre justement dans le cadre de l'acquisition d'une entreprise et les deux ont dit les avocats ont été contre-productifs quoi. Les avocats ont été useless et tout. Et je mets ça sur LinkedIn et il y a eu une pluie de commentaires en mode oui mais souvent les avocats dans ces cas-là c'est que ils conseillent leurs clients sur des trucs les clients se rendent pas compte de leur erreur.
Non, je pense que les avocats ils veulent facturer aussi.
Mais
souvent c'est vrai que c'est très très contre-productif.
Et tu mentionnais, tu vois justement pour revenir sur la conf et ton activité en droit pénal, tu mentionnais ton activité de défense de génocidaire.
Oui.
Ça, c'est des dossiers qui sont issus de la conférence, j'imagine.
Le premier, oui.
Ouais.
Et après, non.
Exactement. Et c'est quelque chose. C'est une étiquette qu'on t'a beaucoup collée.
Oui. Oui. Oui, je sais. Enfin, je sais pourquoi. C'est un dossier où j'avais passé beaucoup de temps, où ça se plaide pendant très longtemps. Enfin, c'est un dossier d'un mois et demi. J'en ai fait 2, et après j'en ai eu d'autres à l'instruction. Et oui, les gens, ils ont aussi besoin de vous coller une étiquette. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Je peux pas être avocat de génocide à Rwandais pendant 30 ans. Mais ça m'a défini aussi. Dans ma vie d'avocat, c'est un moment assez unique puisque c'est des dossiers qui sont au-delà des dossiers judiciaires. C'est un dossier de sociologie, d'histoire, de philosophie du droit et de génocide. Donc du crime le plus grave qui puisse être commis. Et les débats sont toujours très actuels pour savoir ce qu'est un génocide, un crime contre l'humanité. Donc c'est des questions qui me fascinaient. Et d'ailleurs, je reviens peut-être au début de notre discussion, mais ce côté prof ou étude ou réflexion intellectuelle m'a jamais trop quitté, puisque cette parenthèse rwandaise, elle a duré de 2000... ça a commencé en 2010. J'ai encore des dossiers en cours, mais disons que le dernier dossier s'est achevé en 2018, qui était l'appel de Octavia Nguenzi. Je réfléchissais toujours à ces questions de victimes, de bourreaux, de droit pénal international. Et cet aspect, philosophie du droit, est quelque chose qui me botte beaucoup. Et peut-être que tu as raison, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'avocat dans la cité ou l'avocat qui essaie de prendre un peu de recul ou un peu de hauteur sur ces sujets-là, qui sont des sujets et d'actualité et gravissimes, peut aider à une meilleure compréhension ou... Là, c'est la défense du plus méchant qui est le grand classique du dîner d'avocat. Pourquoi tu défends un type aussi atroce, etc. Bon. D'abord, peut-être parce que je lui ressemble et qu'on a tous un côté atroce et qu'il faut l'assumer, cette part de mauvaise, disons, cette part maudite. Mais aussi parce que c'est le métier d'avocat. Et c'est pour ça que continuer à défendre des gens qui sont acculés ou dont vous êtes, pour lesquels vous êtes le seul rempart ou la seule aide, c'est le métier d'avocat. Et on le ressent aussi dans des dossiers qui ne sont pas que des dossiers... de pénal ou de contentieux. On peut le ressentir au quotidien.
Tu as évoqué tout à l'heure le livre qui est apparu récemment sur le blues, c'est ça?
Oh, j'ai évoqué l'autre, mais oui, celui-là, c'est la suite du premier.
Donc une activité autour de la musique, le droit et la musique, c'est ça?
Oui, exactement.
Donc il y a eu 2 ouvrages.
Exactement.
Est-ce que tu peux me redire?
Bien sûr. Ça a commencé avec des chroniques dans Rock et Folk, un magazine pour fans de rock, mais qui est quand même encore un peu lu.
Comment est-ce que tu as eu cette opportunité?
Alors j'ai eu d'abord l'idée avant l'opportunité. J'avais fait un premier livre en lien avec le Rwanda, qui est un livre qui s'appelle Un génocide pour l'exemple, que j'ai publié aux éditions du Cerf et qui s'est pas du tout vendu. Donc j'étais excessivement déçu de pas vendu, pas discuté. Enfin, je pense qu'il est sorti au mauvais moment, mais peu importe. Et je voulais faire un livre sur un sujet beaucoup plus gai que le génocide et le Rwanda. Et je voulais écrire sur le rock. J'avais parlé à un éditeur spécialisé et je lui avais dit j'ai envie de faire les 100 disques de Fabrice Epstein. On m'a dit c'est sympa, mais comme t'es pas Philippe Manœuvre, ça servira à rien de faire les 100 disques de Fabrice Epstein. Il me dit il faut un angle. Tu peux faire par exemple les 100 disques de rock chrétien. Je sais pas pourquoi il m'a sorti cette référence. Et quand j'ai raccroché, je me suis dit j'ai.
Mais oui, le rock chrétien.
Oui, voilà. Oui, pas le rock chrétien, tout sauf le rock chrétien. Je vais faire. Je suis fan de rock, ça je le savais. Je suis fan de justice parce que c'est des sujets qui m'intéressent, disons, de philosophie du droit. Et je vais raconter les grands procès du rock, c'est évident. Donc j'ai tapé sur Internet « grands procès du rock », rien n'est sorti. Je l'ai tapé en anglais, plus quel est le terme que j'ai regardé dans Google. Et je n'ai pas vu de personne qui avait chroniqué ou qui avait fait un livre ou qui avait fait des articles sur les grands procès du rock. Donc j'envoyais des vidants comme George Harrison qui avait piqué My Sweet Lord ou des procès de mœurs avec Phil Spector qui avait tué une serveuse, etc. Les Sex Pistols, bon. Et j'ai commencé à écrire des chroniques pour moi. J'en ai fait 4-5. Et on a un client au cabinet qui s'appelle Bertrand Burgala, qui est musicien, qui est un type assez génial, et qui chronique dans Rock'n'Folk, qui a la dernière page, qui raconte son moi à moi, ça s'appelle comme ça. Et je lui ai filé les chroniques, et le mec m'a dit ah, « j'adore l'idée, c'est super, il faut que t'en parles à Vincent Tanière, le rédac-chef de Rock'n'Folk ». Et je l'ai vu, j'ai rencontré Vincent, qui m'a fait confiance. C'était un peu parti dans les limbes pendant un temps, puis un jour il m'a appelé, c'était au moment du confinement, il m'a dit bah, « achète ton prochain Rock'n'Folk parce que t'es dedans ». C'est ta première affaire dans cette chronique. Donc j'ai fait une chronique. Et ensuite, j'avais l'idée d'en faire un bouquin. Alors pas forcément des chroniques de Rock'n'Folk, mais des nouvelles et certaines de Rock'n'Folk. Et au cabinet, on avait défendu un jeune gars assez sympa dans un dossier où sa photo avait été illégalement utilisée par un éditeur. On avait fait condamner cet éditeur et on avait gardé contact avec lui. Et en fait, il m'a proposé assez facilement de faire un bouquin sur rock et justice. Et j'ai fait un premier livre qui s'appelle Rock'n'Roll Justice, une histoire judiciaire du rock, aux éditions La Manufacture de Livres, qui est sorti en novembre 2021 et qui raconte, qui tente de raconter une histoire judiciaire du rock. Donc il y a un chapitre sur le plagiat, il y a un chapitre sur la notion de groupe, ce qu'est un groupe de rock juridiquement, quelle forme ça prend. Il y a un chapitre sur les affaires en France, particulièrement, donc ont été jugés en France, sur des chroniques un peu imaginaires de condamnation de rockers, de défense imaginaire de rockers. Et tout ça, ça a fait un premier livre qui a bien marché pour le coup, qui s'est bien vendu et qui a attiré et des fans de rock et des fans de justice ou des juristes, puisqu'il est à destination de ces deux populations. Et 2 ans plus tard, j'ai fait une suite qui est une histoire judiciaire des musiques noires, donc qui est beaucoup plus large, qui va du blues au rap et qui retrace l'épopée de ces musiques, toujours au travers d'un prisme judiciaire.
Et mais ça doit être un travail monumental.
Alors, monumental, je ne sais pas, mais c'est c'est un travail important parce qu'il y a un travail de recherche que je fais moi, enfin que j'aime faire. Et là, ça revient au truc du prof, enfin de l'amour de la recherche. Donc je source les affaires. Ce qui est génial, c'est qu'avec les États-Unis, les décisions de justice sont très détaillées, donc on trouve énormément de choses. On peut se nourrir très facilement. La France, c'est moins le cas. Et j'essaie de me dire qu'à chaque fois que je chronique une affaire, j'ai une décision de justice. Ou des articles, quand c'est un dossier pénal, il n'y a pas de décision. Un article ou des articles de presse qui reviennent. J'ai parfois eu des avocats au téléphone. J'ai eu l'avocat de George Harrison. J'ai pas réussi à avoir l'avocat de Snoop Dogg. Mais voilà, j'ai eu quelques avocats, des avocats français connus dans des dossiers français, mais l'avocat de Bob Dylan en France, hier, qui m'en a voulu parce que je l'avais pas cité in extenso dans le Rock'n'Roll. Bon, ça c'est des trucs d'avocat. Mais ça m'a permis ou ça me permet d'avoir une réelle culture musicale. Enfin, je suis un grand fou de musique, mais de l'étendre à des sujets qui sont pas forcément les sujets dans lesquels j'aimais chercher au départ, à savoir le business de la musique et la justice dans la musique. Et ça m'a permis de mener des recherches sur l'histoire judiciaire de la musique. Parce que mon idée, c'était... Vous êtes fan de musique, de rock, de blues, etc. Que se cache-t-il derrière? C'est un peu Dark Side on the Moon. Qu'est-ce qu'on peut trouver?
La partie business,
la partie obscure. Et ça dit beaucoup des personnalités des artistes. Et j'en reviens peut-être à cette notion de client. Il y a certains artistes que j'aurais aimé avoir comme client parce qu'ils s'intéressent au droit. D'ailleurs, le meilleur client, c'est aussi quelqu'un qui s'intéresse à son dossier. Par exemple, j'ai pu bosser avec beaucoup de polytechniciens. C'est les seuls qui s'intéressent au pack d'actionnaires. Ils veulent comprendre les mécanismes, etc. C'est important pour eux de piger comment ça marche. Ça, c'est un bon client. Et il y a des artistes qui ont compris qu'on pouvait jouer avec certaines matières du droit, certains qui se sont mis en cessation des paiements pour pouvoir renégocier les contrats. C'est le cas de Tom Petty, qui est ce chanteur américain qui est mort il n'y a pas longtemps, qui est une sorte de Bob Dylan bis. Certains artistes ont cette fibre entrepreneuriale, business et judiciaire. Parfois, ils s'en servent, ils savent jouer avec la justice. Et c'est ça que je veux raconter, ou je vais continuer certainement dans un tome 3.
Que tu dédieras à Taylor Swift.
Oui, mais exactement, parce que le tome 3, ce sera femme, musique et justice. Donc oui, Taylor Swift. Mais Taylor Swift doit avouer que je ne suis pas grand fan. Je ne sais pas pourquoi. J'essaye, parce que autant j'ai découvert une artiste que je trouve exceptionnelle, qui est Lana Del Rey, et j'ai tout acheté, j'ai adoré, je suis fan absolu, mais ouais. J'ignorais à quel point c'était génial. Autant Taylor Swift, je suis pas encore dedans, mais je désespère pas de l'être, et bien sûr, ça fait partie des elle a le sens du business.
Ouais,
et
moi je suis pas fan de sa musique, à part quelques morceaux que j'aime bien, mais
par contre, exceptionnelle.
La personnalité est fascinante, ouais. Quoi.
Non, mais de se dire, et ça aussi, ça rejoint un peu les recherches sur le rock et la justice, ou musique, ouais. Et justice, c'est de voir à quel point elle influe sur le politique, parce que pour parler du politique, dans mon bouquin Black Music Justice, donc le dernier, je raconte une histoire sur un rappeur qui s'appelle Young Thug, qui lui est aujourd'hui vit un procès sous le fondement de la loi RICO. Ce qui est rigolo, c'est que la proc qui a mené cette affaire et qui mène aujourd'hui les interrogatoires contre lui, c'est celle qui a mis en examen Trump sur le même fondement. Il sera jugé également à Atlanta dans le même tribunal. Donc c'est des sujets qui me passionnent. Et ça m'ouvre et ça me permet de rencontrer des tonnes de gens. Et on en revient au développement de la clientèle. Ça fait des dossiers. Parce que les clients aiment bien, mais aussi parce que vous rencontrez quelqu'un qui vient par ce biais-là et qui se dit, vu que votre cabinet fait une rangée de droits différents, qui pourrait trouver son bonheur ici, et il faut le bon moment, il veut changer d'avocat, il a un projet, il pense à vous et ça peut faire un nouveau client.
Et ça t'a collé une étiquette, entre guillemets, droit de la musique, droit des artistes, des choses comme ça ?
Non, parce que c'est un très très spécialisé, ouais. Et les avocats qui font ça, ils le font depuis très longtemps, mais ça m'a permis de discuter avec des confrères qui faisaient ça, et qui nous envoient leur M&A, par exemple, en droit du cinéma ou en droit de la musique, des contentieux d'actionnaires. Et finalement, c'est une porte comme une autre pour entrer.
Ouais.
Vous retrouvez à faire le contentieux d'actionnaire du manager de tel groupe de rock. Bon, à un moment, il va vous dire, mon groupe signe tel contrat, est-ce que tu peux jeter un œil, etc. Donc oui, c'est une volonté, petit à petit, de faire du droit de la musique, mais de dire à ce stade, voilà, moi je suis un simple chroniqueur,
oui.
Ou bien quelqu'un qui essaie de raconter une logique à cette histoire judiciaire de la musique, où j'essaie de penser les choses, j'ai fait des essais sur le sujet. Oui, avocat, pourquoi pas, mais laissez-moi le temps d'apprendre, et c'est ce que je suis en train de faire parce que c'est une population assez géniale.
Ça te prend combien de temps par, je sais pas, j'imagine que quand tu es sur le point de boucler le livre, ça te prend tout ton temps.
Oui,
mais
exactement, non, mais le livre, ça a été.
Mais tes recherches.
Non, ouais. Le livre, c'est plusieurs mois de recherche. Bon, pas intensive, hein, parce que c'est pas possible de les mener à bien de façon intensive, à coup de 2-3 heures par jour, au moins, minimum. Et ensuite, la rédaction, cela a été par exemple quasiment tout août 2023. Et après, il n'y a pas que ça. Il faut préparer la suite, les interviews. Parce que même quand on a écrit un livre, on ne le connaît pas par cœur. Donc, il faut relire ce qu'on a pu écrire. Non, c'est beaucoup de boulot, mais c'est un boulot qui est extrêmement satisfaisant.
Tu pars des décisions ?
Oui, bien sûr.
Et ensuite, tu navigues ?
Oui, absolument.
Oui.
Ça commence. Mais une fois de plus, je pense à une parce qu'elle me revient comme ça. Enfin, j'avais lu pendant l'été, et je le conseille à tous les avocats, la bio de Johnny Cochran, parce que je pense que si on veut vraiment développer sa clientèle, faut pas lire les livres des avocats français, il faut lire les livres des avocats américains. Donc Johnny Cochran, c'est notamment l'avocat de Jay Simpson, c'est l'avocat de Puff Daddy, c'est l'avocat de Michael Jackson, mais c'est aussi et surtout l'avocat de beaucoup de Noirs américains qui sont battus contre le système à partir des émeutes de Watts en 1965. Lui, c'est un régal, son autobiographie. Et de cette autobiographie, j'étais arrivé à des affaires puisqu'il a été l'avocat de Rosa Parks dans un dossier qu'elle a eu contre Outkast, le groupe de rap qui avait fait une chanson qui s'appelait Rosa Parks. Et à partir de ça, donc j'ai la notion que cette affaire existe. je vais chercher sur Internet et là, Rosa Parks versus Outkast, il y a deux décisions de justice, une première instance, une d'appel, et vous avez 15 pages de doc, des fondements de droit, comment le juge, l'opinion dissidente. Donc il y a moyen de faire 10 pages sur le sujet. Et ensuite, s'abreuver auprès d'articles et de sources. Mais oui, j'essaie, dans la mesure du possible, d'avoir la source qui est la décision de justice. Pour la France, j'en avais fait une dans le premier livre Rock'n'Roll Justice sur Bob Dylan. Bob Dylan avait été mis en examen pour incitation à la haine raciale. Peu importe, dans un dossier en lien avec des Croates. Il y avait une décision de justice, il a été, lui, il y a eu un non-lieu à son sujet, mais ensuite le magazine dans lequel il avait publié s'était retrouvé dans la 17e chambre. J'avais analysé la décision de justice, c'était assez facile de parler aux avocats, etc. Donc oui, toujours une décision de justice.
Et j'imagine qu'après tu vas chercher autour du contexte, après il y a toute la question du contexte social et...
Oui.
D'où l'aspect tentaculaire du truc, quoi.
Oui, tentaculaire. Après, il faut choisir ses combats. C'est-à-dire que le blues, j'en parle beaucoup, et la notion d'appropriation culturelle. Bon, j'ai pas lu non plus 15 bouquins sur la notion d'appropriation culturelle, mais voilà, quelques auteurs clés en jazz. Je parle beaucoup des addictions dans le jazz, qui est un sujet très récurrent. J'avais lu un morceau de bouquin d'un type très connu sur sociologie de l'addiction et pourquoi les jazzmen sont des gens plus addicts que les autres. Mais c'est des sujets qui me passionnent, donc je ne fais pas d'effort à m'y intéresser. Et je suis content même d'y arriver, parce que je dois avouer que avant d'écrire ces bouquins ou avant de m'intéresser à ces sujets dans le rock et dans la musique de manière générale, j'étais tellement fan de Lou Reed, de Bob Dylan, Bob Marley, etc., que je n'osais pas lire sur eux et que je me refusais à lire sur eux. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je me refusais à devenir avocat en droit de la musique, parce que j'aurais pu tout à fait, avec cette fanitude totale de ces gens, puisque je lisais le Rock and Folk quand j'avais 10 ans, me dire je vais être l'avocat du groupe Justice, ou d'essayer d'aller chercher à travailler là-dedans. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais voulu, parce que j'avais trop d'admiration pour ces gens. Mais finalement, on revient toujours à ce qu'on veut faire. Et c'est ça aussi que permet ce métier. Et c'est en cela que je trouve assez exceptionnel et unique. C'est qu'être avocat, en tout cas tel que je le vois, tel que je le pense, ça permet de tout faire. Et ça vous permet aussi de faire de la politique, mais ça, c'est... Ma femme ne veut pas que j'en fasse, et j'en ferai pas. Et c'est beaucoup trop dangereux. Et c'est beaucoup trop dangereux.
Ça t'a tenté ?
Oui, ça tente toujours. Mais c'est, y a beaucoup trop de coups à prendre, c'est beaucoup trop dur. Je trouve que notre profession est dure, parce qu'on prend des coups, on prend des coups des clients, on prend des coups des confrères, on prend des coups des magistrats, on prend des coups de ses collaborateurs, de ses associés éventuellement. C'est un métier dur, c'est pas un métier facile, avocat. Y a beaucoup d'avocats qui font des AVC de façon régulière, donc c'est quand même un métier dur. Mais la politique, c'est encore plus dur, c'est beaucoup plus dur.
Tu l'as laissé à d'autres.
Oui, bien sûr. Il y en a d'autres en plus qui le font bien et qui sont capables de prendre tout ça sur leurs épaules. Moi, c'est pas. J'en suis incapable. Et il n'y a pas la même liberté. Là, il n'y a plus de liberté du tout. Et ce métier, tel qu'il faudrait le faire, c'est la liberté. Et la liberté, elle donne d'abord satisfaction et puis elle occupe. C'est quelque chose qui occupe. Être libre, ça vous occupe énormément. Et c'est ça d'ailleurs, parce que parler d'ennui quand j'ai commencé ma collaboration, je veux pas pousser tous les collaborateurs à créer leur cap, mais la liberté, ça occupe. L'ennui, c'est terrible.
Qu'est-ce que tu veux dire par la liberté, ça occupe ?
Moi, ça veut juste dire que quand on est dans un état d'esprit, on est libre, naturellement, on va vers des tonnes de choses. Et donc, on rencontre des gens, on fait des dossiers, on s'intéresse à des choses qu'on avait mis de côté, on retourne vers ses passions, et parce que pour bien faire ce métier, il faut être un peu épanoui aussi. Sinon, c'est le gratte-papier avec les poches sous les yeux, engoncé dans son costume, comme on peut voir dans plein de cabinets qui sentent la naphtaline et avec de la moquette. Quoi. C'est pas satisfaisant. C'est un métier peut-être où on gagne très bien sa vie. Et je le comprends, il faut rembourser les prêts, il faut payer son terme, comme dirait Céline. Mais il n'y a pas que ça. Quoi. En tout cas, on peut essayer de trouver cet équilibre entre ça, parce que c'est important, et le reste qui est... mener des combats. Alors, moi, je ne le fais pas forcément. Mais au cabinet, des avocats le font, et je trouve ça très bien. Bon, enfin, je le fais peut-être à ma façon, mais on mène des combats. pour le droit des femmes, pour d'autres choses que ce qui rapporte de l'argent. Donc pour l'écologie, c'est pas forcément le cas encore aujourd'hui, mais je sais qu'il y a notamment une collaboratrice que peut-être t'interviewera et qui est très très branchée écologie et c'est un métier qui permet de vivre aussi ses convictions. C'est un métier de conviction. Donc voilà, le champ des possibles est très vaste. Après, chacun fait son marché, quoi.
Comment est-ce que ça s'organise, on va dire, financièrement, la place, tu vois, même dans le cadre de l'équilibre financier du cabinet, la place donnée aux choses qui ne sont pas le cœur de l'activité. Tu vois,
ça se fait naturellement, je pense. Évidemment, ça ne peut pas être 50% du temps des avocats au cabinet, mais ça fait aussi de la bonne pub. Donc, indirectement, ça rejaillit sur l'image du cabinet. Et c'est surtout, je pense, un oxygène obligatoire pour les avocates et les avocats du cabinet. Donc, quand on le fait, c'est parce qu'on en a besoin. Et ce besoin permet de mieux travailler les autres dossiers. Donc, c'est naturel.
À partir de quel moment est-ce que vous avez eu l'impression, avec ton associé, que le cabinet... qu'il y avait un déclic qui se faisait, quoi, que ça démarrait vraiment l'activité et que vous étiez sur des rails?
Alors ça, c'est une question de point de vue. Moi, je suis quelqu'un d'angoissé. Pas de pessimisme, mais d'angoissé. Donc j'ai toujours l'impression que c'est jamais sur les rails.
Donc encore
toujours,
aujourd'hui,
ouais. Et que c'est un métier avec une incertitude, même si on a amassé des clients et que d'année en année, c'est vrai. Plus vous faites ce métier, mieux vous le faites, je pense. Enfin, si vous restez dans ce boulot. Donc d'année en année, les clients viennent plus naturellement, les clients reviennent, de nouveaux clients sont agrégés, etc. Mais il faut toujours se battre. Donc il n'y a pas de certitude. Mon associé, il est beaucoup plus optimiste que moi. Pour lui, oui, ça fait, je pense, depuis qu'on a embauché notre première collaboratrice, que ça marche bien et qu'on est content. Moi, il y a des moments où je me dis, oh là là... Ça va pas, il faut encore aller chercher de nouveaux clients, ça pourra jamais tourner tout seul, il faut encore qu'on rentre dans l'arène, ça dépend toujours de nous, il faut pas s'arrêter, et il faut recontacter un tel, mais ça marche depuis un moment, parce qu'on s'est vachement bougé. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que ça ne marche pas, mais c'est parce qu'ils ne se bougent pas. Il n'y a pas de c'est un métier où je suis pas sarkozyste, mais c'est vraiment on travaille plus, on gagne plus, quoi. C'est tout à fait corrélé. Et les contacts, une fois de plus, ils ne viennent pas comme ça, quoi. Il faut aller les chercher. Ils sont au bout de la rue, mais il faut aller les chercher.
Et donc, ce recrutement de première collaboratrice, il est arrivé au bout de combien de temps?
Il est arrivé, ça s'est fait progressivement. Donc d'abord, on a pris des locaux, on était trois, puis deux. On a fonctionné avec des stagiaires, certainement, au départ, pendant, je dirais, 2 ans. Et puis ensuite, on a eu un peu de chance. On a eu un beau dossier avec des honoraires conséquents. Et la première chose qu'on a décidé de faire, c'est pas de prendre une collaboratrice ou un collaborateur, c'est de changer de locaux, d'avoir nos locaux. Donc on a déménagé dans des locaux qui devaient faire 120 mètres carrés. Rue Saint-Roch, dans le premier arrondissement.
Et vous avez acheté à ce moment-là?
Non, on n'a pas.
Ah, parce que tu disais
non.
Nos locaux, ouais.
Oui.
Oui,
pardon, non.
Vous étiez plus en sous-loc, quoi.
Exactement,
ouais.
Voilà. On était les titulaires du bail, disons. Et là, c'était 2014-2015, quelque chose comme ça. Et là, on a commencé à embaucher. Mais là, on a fait un truc invraisemblable. C'est que comme on commençait, on avait beaucoup de CV. Et on a reçu les gens pendant une semaine, du matin au soir, je crois. De 8h à 18h.
Est-ce que vous n'arriviez pas à faire le tri sur les CV?
Oui, on ne savait pas trop. Puis on s'est dit, allez, voyons les gens au maximum. Et puis on verra ce que ça donne. Et là, on a embauché une première collaboratrice, je crois, qui restait très peu de temps.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais on ne devait pas se comprendre. Enfin, on n'était pas sur la même... c'est pas simple. Hein, quand vous êtes la première collaboratrice avec deux associés qui ont des approches de travail différentes, vous retrouvez à essuyer un peu... Les premières expériences d'associés, c'est-à-dire de véritables associés, de quelqu'un qui aussi a un collaborateur ou une collaboratrice. Et on devait être des patrons un peu désorganisés, je pense. Et ça devait aller dans tous les sens, surtout que les dossiers allaient dans tous les sens. Ça n'a pas duré longtemps. Et ensuite, notre première collaboratrice, elle est restée 5 ans avec nous.
Donc la deuxième.
La deuxième. Et puis après, ça s'agrège, un nouveau, deux nouveaux, trois nouveaux. Et aujourd'hui, on est 10 avocats.
Deux associés, 10 avocats, ouais. Oui. Et tout le monde travaille avec tout le monde ?
Oui.
Ouais.
Oui. C'est la volonté aussi des collaborateurs et des collaboratrices.
Comment est-ce que tu expliques que, alors que vous démarriez tout juste et que le cabinet n'était pas très structuré, etc., vous ayez eu autant de candidatures ?
Alors, autant de candidatures ? Oui, on devait avoir...
En tout cas, assez pour passer une semaine à recevoir du monde, quoi.
Une semaine, peut-être que j'en fais un peu trop, mais au moins 3-4 jours, ouais. On avait fait quelque chose qui nous avait... c'était le tout début des réseaux sociaux, notamment de Facebook, où les entreprises publiaient beaucoup sur Facebook. Et on avait fait quelque chose. On avait décidé de créer un moment d'échange qui s'appelle la Soul Factory, et où, avec un de mes potes businessman, un copain comptable... et un copain qui était tech ou développeur, on recevait avec Benjamin des jeunes start-upers. Ils venaient, ils racontaient leurs problèmes, on essayait de les conseiller gratuitement. Certains, par la suite, sont devenus clients. Et ça nous a donné une petite légitimité sur le marché, vu que personne ne faisait ça à l'époque. Et c'était aussi une façon pour nous très assumée de se faire connaître. Et les gens se sont dit, on va essayer de travailler avec eux, c'est sympa, ils ont l'air jeunes... Et essayons. Et donc oui, il y a eu du monde. On a eu un certain succès pour faire ce choix de la première collaboratrice. Et là, on est entré dans un tunnel d'entretien. Je ne sais pas très bien pourquoi on a fait ça à la suite, mais surtout qu'il y avait plusieurs rounds d'entretien parce qu'on se disait qu'il fallait qu'on puisse tester un certain nombre de capacités, notamment d'écriture. Et la collaboratrice qu'on a embauchée nous a donné satisfaction très vite. C'est-à-dire qu'elle a compris comment il fallait travailler avec nous deux et pourquoi nos méthodes étaient très différentes. Moi, je faisais vachement plus confiance que Benjamin, qui lui relisait beaucoup plus. Et c'était pas simple de passer de l'un à l'autre. Après, il n'y avait pas 10 associés avec qui travailler.
Et le deuxième recrutement, comment est-ce que tu expliquerais qu'il ait été plus un succès ? Qu'est-ce que vous avez changé dans votre manière de manager ?
Non, je pense qu'on a mieux choisi. Or, oui, bien sûr, de notre manière de manager, non. C'est peut-être la personne qui s'est plus adaptée à nos comportements. On s'est dit qu'il fallait qu'on apprenne avec elle et qu'il fallait qu'on soit bienveillant. Enfin, c'est un terme très, très à la mode et... Mais en tout cas qu'on ait une compréhension du collaborateur importante. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est aux associés de s'adapter et non l'inverse, quoi. C'est ce qu'on voit, je pense, hein, que c'est la norme. C'est très dur de recruter, c'est très dur d'avoir de bons collaborateurs, c'est très dur de les garder, donc il faut s'adapter à eux.
La Soul Factory, c'est quelque chose que vous continuez ?
Non, parce que ça nous prenait énormément de temps,
ouais.
Ça a duré 3 ans, les gens nous en parlent encore. Parce que c'était un peu jeune, un peu nouveau, et que nous on s'éclatait à le faire. D'ailleurs, il y avait un côté, on s'est inspiré avec Benjamin de la conférence, parce que à la conférence il y avait un côté festif et de rencontres et d'organisation de la Berryer qui pouvait se tenir à Paris et à l'étranger. Parce que la Soul Factory, on l'a pas faite qu'en France. On est allé avec à Lausanne, on est allé à Genève, je crois, on est allé au Maroc. On a voulu la tenir à l'étranger, en province aussi, parce qu'on s'était dit que ça nous permettait de rencontrer des confrères sur place et de créer des liens, et c'est ce qu'on a fait notamment avec les Suisses.
Et ça vous a drivé du business suisse ?
Oui. Oui.
J'avais une question tout à l'heure, tu as parlé de l'aspect conciliéré de ton métier. Donc ce que je comprends,
ça c'est parce que je relis le parrain en ce moment et que je l'envoie. Ouais.
Non mais je te sens très très inspiré par le parrain.
Absolument, absolument. Je recommande un livre qui est sorti aux États-Unis il y a 2 ans, mais qui vient de sortir récemment, qui raconte la façon dont le parrain a été mis en film. Et les difficultés sur le tournage, de production, etc. C'est très, très intéressant. Quoi. Et la nécessité de négocier, notamment avec la mafia, pour les producteurs du film. Non, je m'en inspire pour les négociations, puisque c'est essentiel dans notre métier.
Tu me donneras la référence exacte ?
Oui, la référence exacte, c'est « Laisse le flingue et prends les cannolis », qui fait référence à une phrase mythique du parrain lorsque le chauffeur de Don Corleone est tué.
Ok. Et donc, cette partie du métier, ce que je comprends, c'est que tu mets sous cette appellation le côté, le client qui passe un coup de téléphone. Il n'y a pas une problématique, c'est presque une presque une problématique business ou personnelle et il veut ton avis.
Non, pas que ça. Pas que ça. C'est, alors, évidemment, il y a ça. Parce qu'il sait très bien que derrière, on va gérer l'aspect juridique, les contrats, les revoir. Mais pour les clients, parfois, c'est un peu du travail de gratte-papier. Donc, ils n'y mettent pas une importance incroyable. Non, trouver des gens qui vous font confiance et qui auront envie qu'au quotidien, vous soyez un aide de camp et que vous puissiez donner les bonnes directives et que vous puissiez leur dire plus que ce pourquoi ils viennent vous voir. Parce que je trouve que parfois, et c'est, on le voit dans le comportement des collaborateurs, c'est un avocat, on lui amène un dossier en disant « il faut faire ça ». Ou bien « il faut éteindre ce feu », mais peut-être qu'on peut faire plus. Peut-être que les 2 millions, les 10 millions que le client croyait perdus, on peut les récupérer d'une autre façon. Peut-être qu'il y a un deal à trouver, peut-être qu'il y a un arrangement à imaginer, etc. Et c'est là où vous pouvez d'autant plus justifier vos honoraires. Quelqu'un venait pour éteindre un feu, hein, vous l'éteignez avec lui, puis vous en rallumez un nouveau, ou du moins vous lui construisez une maison. Donc il y a toujours où il vient vous voir pour une levée de fonds. Et vous connaissez quelqu'un qui veut investir dans son secteur, donc vous permettez de marier les gens. Et vous pouvez faire plus que votre simple métier technique. Pour ça, on parlait tout à l'heure des aspects techniques, des collaborateurs qui sont engoncés dans les aspects techniques, qui ne voient que ça et qui ne pensent qu'à ça. Non, c'est pas que ça, avocat. C'est aussi peut-être connaître la bonne personne ou parler au bon interlocuteur ou un dossier devient politique, donc il faut réussir à trouver le bon interlocuteur, à lui faire comprendre un bon message pour qu'ensuite on ait une issue plus favorable. Aujourd'hui, il m'arrive de conseiller des personnes physiques qui sont des gens de famille importante ou de famille qui investissent pas mal d'argent. Et j'aime bien parce que s'ils vous font confiance, ils vous font confiance sur tout. Et que ça peut être une problématique immobilière comme une problématique... Et pour eux, il m'arrive de traiter des choses que je ne connais pas du tout. Par exemple, du droit de l'urbanisme. C'est pas du tout un sujet qui m'est familier. Mais en fait, c'est un dossier qui va recouper et des notions de droit de l'urbanisme qui finalement sont assez simples à comprendre. Et parler à un interlocuteur politique, essayer de le convaincre de la faisabilité d'un projet. Et je trouve que c'est là que le métier prend tout son sel. Et vis-à-vis du client aussi, que vous pouvez montrer votre valeur. Parce que votre valeur, c'est de la technique, mais c'est aussi, le mot est à la mode, les soft skills, la négociation, la médiation, plus que résoudre un enjeu en particulier. Et c'est pour ça que je parle de ce métier de conciliaire. Prenez Tom Hagen dans Le Parrain. Il va tout aussi bien revoir des contrats que aller essayer de faire chanter un gros pont d'Hollywood pour donner le rôle à Frank Sinatra. Donc c'est aussi ça, c'est le fait que le client, même s'il ne le fait pas, il projette ça en vous. Et d'ailleurs, au fond, ça ne fait que le flatter, et c'est important de flatter un client. Ça le rend important de se dire « j'ai mon homme de main juridique qui... » Mais c'est le sens du mandat et de la représentation, qui pourrait aller à une assemblée générale pour moi, de mes copropriétaires, comme aller négocier ce point-là parce que je m'en sens incapable ou parce que je pense qu'il le fera mieux que moi. Donc, il y a des avocats qui le vivent comme ça. Il y a des avocats qui deviennent des véritables conciliaires, voire qui parfois entrent dans certaines familles pour devenir le directeur juridique, le directeur des opérations. Je ne pense pas du tout être le seul avocat à avoir cette vision. C'est une vision panoramique. Ça ne veut pas dire que vous savez tout faire. C'est-à-dire qu'en droit de l'urbanisme, on est accompagné par un confrère dont c'est le métier et qui fait ça depuis 15 ans. Je ne me verrai jamais faire une note technique sur un sujet que je ne maîtrise pas. Ce n'est pas du tout la question. Mais c'est parfois être celui qui chapeaute ou accompagner d'autres confrères dans un dossier plus complexe que celui qui vous a été confié au départ.
Et comment est-ce que, tu vois, je reboucle avec la conversation qu'on avait en début d'échange, comment est-ce que ça se facture cette posture-là ? Parce que tu vois, c'est, dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'extra-opération, tu vois, quand la mise en relation qui peut être décisive, l'idée qui fait que je trouve que ce peut souvent se poser la question de, mais en fait, du coup, est-ce que je facture ? Est-ce que je facture pas ? Est-ce que c'est du travail ? Est-ce que c'est pas du travail ? Et surtout quand, au fur et à mesure, ça prend de la place, tu vois. En tout cas, toi, quel est ton regard là-dessus ?
Je pense que ça s'équilibre. C'est-à-dire qu'à la fin, le client dit ou considère qu'il y a une facture complémentaire qui vient, ou il y a un nouveau dossier qui vient, ou il y a un dossier qui est envoyé et on s'y retrouve. Parce que tu parlais tout à l'heure de gratuité de tes clientes. Il faut être généreux, mais il ne faut pas tout le temps l'être. Et je crois que c'est des moments aussi de vie professionnelle. Au départ, quand on a commencé, il fallait être généreux parce qu'on n'avait pas le choix. Mais ça, c'est la mauvaise générosité. Et on fait les trucs gratuits parce qu'on se dit que... Après, il y a d'autres gens, quand vous faites des trucs gratuits, vous identifient comme un avocat gratuit. Donc, dès qu'il s'agit de payer, il va voir quelqu'un d'autre. C'est quand même la pire des récompenses. Il y a des moments où on a un peu plus le temps, où il faut être généreux avec des nouvelles personnes, leur parler. Il faut sentir le client. Il y a des gens qui vont venir vous voir 30 fois. Il ne va jamais se passer un dossier. Bon, ben, eux, au bout de la 5e fois, il ne faut plus jamais prendre leur appel. J'en ai eu un récemment, un type qui me convoque il y a un an pour lui faire une proposition d'honoraire, jamais de réponse. Et il y a un mois, il me rappelle, parce qu'il a un contentieux avec ce même sujet, et il me dit, il faut que vous m'aidiez absolument, c'était parlé il y a un an, enfin, c'est comme si j'avais encore en tête qui il était. J'ai été généreux, enfin sympathique, je l'ai pris au téléphone une fois, j'ai parlé avec son avocate actuelle, je lui ai fait une proposition d'honoraire, j'ai jamais eu de nouvelles.
Sur ce contentieux, sur oui, ce il contentieux. Avait absolument besoin de vous,
absolument,
de toi.
Absolument, oui. Il va revenir, mais là, je lui répondrai plus. Parce que je... Mais à l'inverse, j'ai rencontré quelqu'un par le biais de notre intérêt commun qui est le rock. Au début, je n'avais pas trop envie d'y aller comme ça sur le papier. Ça ne me disait rien que de passer du temps avec la personne. Bon, ben, on s'est vus pendant, je ne sais pas, plusieurs mois de façon assez régulière. Un jour, il m'envoie un dossier qui, pour moi, est un gros dossier, très intéressant. Donc j'ai bien fait de le voir. Par ailleurs, j'avais du plaisir à le voir. Il y a aussi ça. C'est-à-dire, c'est bien d'être généreux, mais il faut être généreux avec des gens qui sont plaisants. C'est d'être généreux avec quelqu'un qui vous parle mal et en plus vous lui revoyez ses statuts gratos. Là, c'est de la bêtise. Enfin, ou c'est de la naïveté. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui font miroiter un certain nombre de choses. Bon, mais avec le temps, on comprend qu'il faut mettre dehors et qu'il faut garder. Mais tu as raison, c'est vrai que c'est pas trop simple. Je pense qu'un contact, qu'est-ce que ça coûte de le présenter ? Quand ça peut donner quelque chose, ça coûte rien. Donc si c'est 5 minutes de téléphone qui permet à un client de trouver un investisseur, bon ben, il sera plus généreux sur la prochaine levée de fonds, c'est évident. Ou il va avoir tendance à se dire, ou il va se répandre de bons commentaires à vos sujets en disant bah, « Epstein est sympa, en plus il m'a présenté un tel, je suis content, c'est mon investisseur ». À l'inverse, si vous présentez la mauvaise personne, là ça peut être catastrophique, mais bon, c'est pas de votre fait, mais il faut essayer de trouver cet équilibre. Et les gens, il y a des clients généreux. Je disais en préambule au départ que personne n'aimait payer. C'est vrai qu'en général, les gens n'aiment pas payer. Mais il y a des gens qui le font aussi de bonne grâce, très rapidement. Et qui, c'est souvent ceux qui ont l'habitude d'un conseil, d'un avocat. Ça aussi, le client parfait, c'est celui qui a déjà eu une expérience avec un avocat. Parce que quand il va vous voir et qu'il est neutre, qu'il n'a jamais eu d'expérience avec un avocat, il va tout essayer avec vous. Il va essayer de vous avoir, il va essayer de vous... De prendre de votre temps, etc. Quand vous avez quelqu'un, un client qui a déjà passé du temps avec un avocat, qui a vu que parfois les avocats ne bossaient pas, qui facturaient trop, en tout cas qui a vu tous les mauvais aspects de cette profession, et que vous, vous êtes sérieux, sympathique, et vous délivrez en temps, en heure, et vous êtes raisonnable par rapport au précédent qui prenait 800 euros de l'heure pour rien foutre, bon ben là, c'est un bon client, et vous pouvez être généreux avec lui.
Le client averti.
Oui, 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 le client qui sait ce qu'est un avocat, qui sait ce qu'est bosser avec un avocat, c'est pas un primo client.
De quoi t'as envie pour demain ?
Ça, c'est une question difficile.
Bah alors, on comprend non, c'est une question difficile. Non, mais c'est...
Oui, 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 mais le... Non, j'aurais envie. On aurait envie avec mon associé, parce que c'est une réflexion commune, de trouver des gens qui ont faim. D'autres gens qui ont faim, ils sont les bienvenus ici. Et de continuer à s'amuser, de faire des dossiers de plus en plus intéressants, avec des contreparties de plus en plus intéressantes, et de réussir à garder cette polyvalence qui fait qu'on peut défendre une victime d'agression sexuelle comme un pont du cinéma, ou en ce moment le cinéma à mauvaise presse, ou un musicien, disons, un musicien
ou de l'autre côté, sinon
plein de fougue, exactement. ou une grosse boîte qui en rachète d'autres à tour de bras, ou on bosse beaucoup avec des boîtes dans le monde des médias, télévision, voilà, continuer avec ces gens qui nous inspirent parce qu'ils nous ressemblent, qu'on a du plaisir à les voir et que ça reste pas qu'un métier où on ne pense qu'à facturer, où on ne pense qu'à tenir ses délais ou qu'à faire ses mark-up. Il faut que ça reste rigolo, quoi. Mais ça, pardon, avec le temps qui passe, c'est pas simple. Parce qu'on a moins en moins de temps pour s'amuser, quoi. Mais il faut garder cette fraîcheur.
Est-ce que...
Et cette liberté.
Maintenant, vous avez des collaborateurs, ça fait un petit moment qu'ils sont là.
Oui.
Comment tu vois leur... Enfin,
c'est évidemment une question centrale, parce qu'on veut qu'ils restent, qu'elles restent. On veut qu'ils ou elles progressent. On veut qu'ils aient envie à terme de s'associer, puisque c'est un peu le but de notre métier. Mais pour ça, il faut remonter en compétence. J'ai pas trop de soucis parce que les personnes en question sont compétentes. Mais c'est qu'elles aient envie de développer. Elles aient envie de... Alors, il y a les clients existants pour lesquels elles sont référents. Et là-dessus, il n'y a pas de sujet. Donc, on continue à bosser avec eux ou elles. Mais il y a aussi les nouveaux clients. Comment ils vont aller les chercher? Est-ce qu'ils en ont envie ou pas? Et là-dessus, nous, on ne les forme pas parce qu'on n'a pas le temps ou la volonté. Enfin, ce n'est pas qu'on n'a pas la volonté de les former, mais c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. D'abord, c'est tout simple. Il faut prendre son carnet d'adresses et appeler les gens, leur envoyer des emails et prendre rendez-vous pour déjeuner, quoi. Mais non, on aimerait que à terme, les collaborateurs ou collaboratrices du cabinet deviennent associés. Ça implique aussi une pyramide avec des gens plus jeunes qu'il faut embaucher et former, quoi. Donc un avenir, j'espère, radieux. on se voit pas racheté par un autre cabinet, enfin d'ailleurs ça n'existe pas, ou intégrer une autre structure. Je pense qu'on a trop d'indépendance pour ça.
Est-ce que tu connais Philippe Azen?
Non.
Lui, il se présente comme un conseil juridique.
D'accord.
Parce qu'il est de la vieille école, qui est collectionneur d'art, je pense, comme toi, est-ce que je comprends, de ton bureau. Et dont le cabinet, puisque j'ai eu le plaisir d'aller dans son cabinet, c'est un musée.
D'accord, à ciel ouvert. Mais j'aimerais bien le rencontrer alors.
Voilà, et bien tu vois, ça peut faire partie des personnes tu iras rencontrer comme ça autour d'un déjeuner où je vous mettrai en relation avec plaisir. Mais c'est quelqu'un de tout à fait fantasque et qui fait beaucoup d'opérations en corporate.
Excellent.
Donc voilà, c'était juste une curiosité. Je me suis dit que ça se trouve, vous étiez croisés dans une salle. Figure-toi que c'est quelqu'un que j'ai rencontré. J'étais en train de déjeuner avec un autre avocat. Et je sais pas, et on l'entendait. Ils étaient à la table à côté et on les entendait parler. Et puis en fait, au bout d'un moment, on a posé la question. Ah, vous êtes avocat, ok, machin, nan, nan. Et c'est comme ça que
les opportunités se créent beaucoup au restaurant.
Oui, exactement.
il est connu, et je sais pas qui on prête cette anecdote, mais des avocats célèbres, peut-être même Robert Badinter. En tout cas, des avocats, disons, qui voulaient absolument avoir tel ou tel client, s'étant renseignés sur le restaurant qu'ils fréquentaient au quotidien, aller manger à la table à côté et entrer en conversation. Donc, je ne sais pas s'il y a un message à faire passer aux plus jeunes, mais si les plus jeunes écoutent beaucoup, il faut y aller, quoi. Il faut aller au contact, à la rencontre. C'est que comme ça que les opportunités se créent.
Je t'ai demandé ce que tu voyais pour demain et tu m'as dit que ce n'est pas une question facile.
Ah oui,
toujours plus de
facile.
Liberté.
Ouais. Toujours plus de liberté, ça c'est.
En tout cas, en gardant la liberté actuelle. Quel est ton principe déontologique préféré?
C'est dur ça. C'est peut-être. Quel est mon principe déontologique préféré? La courtoisie, c'est possible?
Oui, c'est pas une réponse qui sort souvent, tu vois.
Oui, je sais pas, je trouve que c'est étrange parce que peu d'avocats sont courtois. Je trouve ça assez. J'aime bien cette. Ceci dit, il y a quelque chose que je valorise beaucoup, c'est le secret. Et d'ailleurs, c'est. Enfin, je ne sais pas si on peut le considérer comme un principe déontologique, mais le secret, c'est aussi pour ça que certains clients viennent vous voir, beaucoup d'ailleurs même, et des clients qui sont liés à votre environnement. C'est-à-dire qu'ils se disent on va venir les voir parce qu'on sait qu'ils n'en parleront jamais, que le secret sera vraiment absolu. Pour certaines personnes, c'est très important.
Et tu dis lié à votre environnement?
Non, mais quand admettons un groupe de copains et il y en a un qui a un vrai problème, pouvoir en parler à quelqu'un de confiance qui ne trahira pas le secret, c'est très valorisé. Et moi, je l'ai beaucoup rencontré, de gens qui se connaissaient, qui parlaient des uns des autres et qui ignoraient que j'étais leurs avocats. D'ailleurs, parfois, les avocats des deux, quoi. Il n'y a rien qui est sorti de ce bureau ou de la salle de réunion parce que, d'abord parce que c'est un secret qui est absolu et que même à l'occasion de dîner, où on sait que certains avocats n'hésitent pas à parler de leur dossier, moi, c'est pas mon approche. Quoi.
Quelle est ta dernière joie ?
Joie ?
Joie.
Dans l'absolu ?
Dans ta dernière joie.
Mais pas professionnelle.
Bah, celle que tu veux.
Oh, c'est la naissance de ma petite fille, qui a deux mois.
Qui a deux mois. Oui. Félicitations.
Voilà, une plus grande joie que mon livre.
Et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ?
Qu'est-ce que je porte sous ma robe ? Souvent un pull.
Merci beaucoup Fabrice Eckstein pour cet échange.
Merci beaucoup.
Vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, donc j'imagine que ça vous a plu. Pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast, vous pouvez le partager, vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles. Ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes. À la semaine prochaine !